Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Merci d'être là sur BFM Business, fidèle à Tech & Co. Merci encore une fois. 20h, 22h, vous le savez, du lundi au jeudi, sur BFM Business, radio, télé, les podcasts et les replays, c'est Tech & Co. 2 heures de tech avec, au sommaire, en ce mardi 7 mars. Eh bien, écoutez, on va évoquer la voiture du futur, en tous les cas imaginée par Mercedes, qui sortira en 2025 avec un environnement dans le cockpit logiciel qui change complètement. On en parlera dans quelques instants. Dans le domaine de la cybersécurité, on évoquera aussi TikTok, dont les taux se resserrent un peu partout. On en parlera avec un spécialiste que vous connaissez, Jérôme Billois, qui sera avec nous. Et puis, on s'intéressera à cette 9e édition de ce concours de start-up élaboré par La Poste, avec des start-up qui font de bonnes choses pour la planète. Vous le savez, c'est ce qu'on appelle des start-up à impact. Et puis, je vous rappelle que Tech & Co, donc, c'est chaque soir à la radio, à la télé, qu'à partir de 22h, vous pouvez retrouver cette émission sur la chaîne Tech & Co, bien sûr, et puis les podcasts et les replays qui vous attendent juste après. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Et l'actu tech de ce mardi soir, c'est avec Frédéric Simotel. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Heureux de te retrouver, mon cher Fred, journaliste à BFM Business. Et dans l'actualité, eh bien, on va évoquer la 5G, mais la 5G en Allemagne, ça se fera sans les acteurs chinois.
Oui, Frédéric. En tout cas, l'Allemagne, on n'a aucune confirmation pour l'instant, mais en tout cas, l'Allemagne songe sérieusement et très sérieusement à limiter l'accès, enfin, d'utiliser ces composants 5G pour qui viennent de chez Huawei, de chez ZTE, donc évidemment des fournisseurs chinois, et donc a prévenu ses opérateurs que ils étaient en train d'étudier la question, qu'il fallait qu'ils se préparent à changer certains composants de leurs équipements, alors des antennes, même des composants internes, et tout ça en leur disant attention, vous allez le faire, mais à vos frais. Hein. Nous, on veut rien savoir. Ce que l'on, alors évidemment, toujours la même chose, c'est les histoires d'espionnage supposé de la part des opérateurs, enfin des fournisseurs chinois, hein, qui auraient, alors ça n'a jamais été prouvé, mais qui, comme il y a beaucoup de logiciels à l'intérieur, pourraient récupérer des datas, et les opérateurs, vous imaginez, tout passe par là. Donc pour l'instant, aucun opérateur n'a été interdit d'utiliser les technologies de ZTE et de Huawei, mais
petit à petit, on y va.
On est vraiment en train d'y aller.
Après, c'est une longue histoire hein, qui dure depuis longtemps. On se souvient qu'il y avait eu ces mêmes pressions en France, notamment pour certains opérateurs. Hein.
Exactement. Alors, ce qui est embêtant, c'est parce qu'à la limite, Huawei commence... Eux, lorsqu'on les rencontre, ils nous disent toujours « Mais nous, s'il y a un cadre, on se fie au cadre et tout ça. » Après, Huawei, ce qui pourrait être inquiétant, c'est si, qu'il n'y ait pas les opérateurs, ils commencent à s'y habituer et je pense qu'ils ont compris que du côté occidental, ça pourrait mal se jouer. C'est si on tombe dans le domaine des entreprises. Parce que là, Huawei, même si on en parlait avec Huawei l'autre jour, qui à l'occasion de ses 20 ans de présence en France avait fait un événement, il disait qu'aujourd'hui la 5G c'est moins de 10% de leur chiffre d'affaires en France. Malgré tout, ils continuent à développer, ils continuent à investir, et puis dans les entreprises, il y a beaucoup de projets 5G, et Huawei peut être très présent dans ces projets 5G. Donc si on interdit aux opérateurs, pourquoi on n'interdirait pas un jour aux entreprises? C'est ça qui est un peu dangereux. En tout cas, voilà, les porte-parole de ZTE, de Huawei disent toujours nous, il n'y a eu aucune preuve, on tient nos codes sources à la disposition de tout le monde. Donc voilà, on attendra la suite à nouveau.
Oh, voilà, les taux se resserrent hein, sur toutes les technologies chinoises. On parlera tout à l'heure de TikTok aussi, hein, Frédéric, bien sûr. Dans l'actualité, c'est Meta qui, après une grosse vague de licenciements, on en a beaucoup parlé, on avait commenté ces chiffres il y a quelques semaines dans Tech & Co, eh bien, aurait encore une deuxième vague de licenciements prévue.
Oui, petit rappel, donc on est en novembre, Meta annonce son plus grand plan de licenciement, même c'était vraiment eux qui lançaient un peu ces plans de licenciement dans la tech, parce que derrière, tout s'est enchaîné. Alors Twitter, c'était un peu différent, parce que...
Elon Musk venait
faire un peu le ménage, mais enfin, on a quand même vu chez HP, chez Dell, tout le monde a suivi derrière. Pardon. Et donc là, rappelez-vous, en novembre, c'était 11 000 personnes sur 87 000 quand même qui étaient licenciées.
Ça fait 13% de la masse salariale.
Oui, alors à l'époque, on disait oui, mais ils ont quand même eu 27 000 embauches en 2020-2021. Donc au final, ça ne fait que 15. Enfin,
solde est positif.
Le solde est positif de 15 000 arrivées. Et puis là, évidemment, Zuckerberg expliquait ça à l'époque, au-delà de l'inflation, du choc énergétique, Zuckerberg citait l'échec de sa stratégie de croissance dans l'e-commerce, hein, puisqu'on a vu les chiffres de pub étaient moins bons, la concurrence plus forte avec TikTok notamment, et puis ralentissement des dépenses des annonceurs, cette concurrence. Et bien là, on apprend que bah là on passe à la phase suivante, c'est maintenant qu'on a enlevé un peu de gras, et bien on va continuer, on va aller sur l'efficacité, et là on va encore licencier, mais pas quelques centaines, on parle de quelques milliers. Alors on n'a aucun chiffre.
On n'a pas de chiffre précis. Hein.
Bon, ça reste quand même, donc aujourd'hui 87 000 moins 11, ça fait 76 000, mais voilà, même 10 000 personnes en moins. Alors, Mark Zuckerberg, lui, veut réduire les coûts de l'entreprise. Il a vu que lorsqu'il réduisait ses coûts, ça fait plaisir à qui ? Aux actionnaires, le cours de bourse remonte en général. Et puis, il espère un peu inverser la tendance, cette tendance un peu à enfoncer un peu Meta, hein, autour de tout le métaverse qui a du mal à décoller. Là, c'est l'intelligence artificielle. Donc, Meta mise énormément sur l'intelligence artificielle.
TikTok qui prend des parts d'audience.
Oui, et puis certains se demandent si, lorsqu'il a commencé à parler de Meta, du métaverse, c'était pas un peu pour cacher un peu les pertes qui s'annonçaient. On se souvient aussi comme Apple, parce que ça, c'était un sacré coup aussi. Apple qui a empêché
la publicité.
Là, ça lui a fait un gros coup. En tout cas, Meta espère réduire ses coûts, être plus efficace et repartir à l'attaque à nouveau avec moins de personnel. Alors après, quand on s'intéresse de près aussi, quand on rentre un peu dans ces entreprises, qu'on connaît quelques contacts à l'intérieur, ils nous disent aussi que ça grossit tellement vite. Enfin voilà, imaginez dans une entreprise aujourd'hui faire rentrer 20 000 personnes, leur attribuer les projets. On a des managers qui ne font plus qui sont des grands DRH alors que c'était des chef de projet très brillant. Donc là aussi, il y a un peu d'efficacité à retrouver.
Dans l'actualité aussi, c'est Free, l'opérateur télécom, qui propose depuis aujourd'hui un nouveau service de streaming sans surcoût, mais qui est réservé en fait à ses abonnés et qui est financé par la pub.
Il se la joue Netflix, voilà. C'est ça. Et ce service, alors, il s'appelle Oki. OQ, ça veut dire OQEE, alors le où vous voulez, quand vous voulez, voilà, le O et le Q de quand, et le EE, c'est free, évidemment. Donc c'est un service donc de vidéo à la demande, avec publicité, tu l'as dit, donc 300 films et séries. Alors il y a des gros blockbusters, hein, Limitless, Godzilla, Hellboy, il y a les incontournables du cinéma, la rencontre du troisième type, le dernier des Mohicans, il y a quelques séries américaines, Startup, Taken, ou celle de la BBC, quelques séries françaises d'un peu de moins d'importance, mais voilà, ce sera en visibilité continue, voilà, on pourra regarder autant de temps que l'on veut. Ce sera en illimité, voilà, je cherchais le terme. Et donc on a ce nouveau service sans surcoût, on le rappelle quand même, et financé par la pub, donc plutôt une initiative à saluer. Puis on va voir comment ça se comporte. Je pense que toutes les plateformes de VOD vont commencer à regarder un peu ce système. Et c'est vrai que Netflix, on le voit avec son système de pub. Ça n'a pas desservi la marque. Hein.
Après, c'est intéressant de voir que finalement, Free renoue avec cette stratégie d'opérateur de proposer du contenu aussi. Hein. Ouais. Certains en sont revenus. Mm-hmm. Ça a été le cas d'SFR, Orange. Bah, Free va dans l'autre voie, à voir si effectivement ça fonctionne. Dans l'actu aussi de ce mardi 7 mars, Fred, c'est Microsoft qui injecte de l'intelligence artificielle dans énormément de ses outils.
Oui, ils appellent ça Copilot, donc avec ChatGPT, bien entendu. Et là, alors, on avait parlé de ChatGPT qui était intégré à Bing. Et bien là, maintenant, on parle de ChatGPT qui est intégré à toute l'offre Dynamics. Alors l'offre Dynamics, c'est toute l'offre de RP, donc des logiciels pour gérer les entreprises, des offres de CRM pour la gestion de la relation client. Et donc le but, c'est de ceux qui vont utiliser ces logiciels, se créer des suggestions de segmentation de clientèle, voilà, de demander à ChatGPT de nous dire, tiens, je voudrais avoir que tel type de client, et donc ChatGPT va aller les chercher dans les bases. Obtenir des idées pour des campagnes de emailing, voilà, trouve-moi de nouvelles idées en donnant quelques détails. Pour tous ceux qui ont testé ChatGPT, vous imaginez bien comment tout cela peut servir. Côté e-commerce aussi, alors il y aura Dynamics 365 qui utilisera des listes de produits qui va dire à ChatGPT, sors-moi les meilleures caractéristiques de chacun des produits du catalogue. ChatGPT va aller les chercher. Alors, les techniciens pourront utiliser aussi pour répondre automatiquement aux emails, les FAQ, alors souvent on nous dit à les consulter. Bien là, il y aura des réponses automatiques qui seront générées par ChatGPT. Et puis, on va aussi avoir arrivé ce copilote, hein, tel que le décrit Microsoft, dans les conversations par courriel, par Teams, qui vont pouvoir faire des résumés. Mmh. Vous avez une série de mails, on a tout ça, hein, tout, un long thread de mails. Mais à la fin, c'est ChatGPT, résume-moi tout ce qui se dit dans
cette conversation. Tout ce qui s'est passé dans la journée.
Donc, c'est plutôt pas mal. Teams, pareil, ça pour la revue fonctionner, ça marche plutôt bien. Donc, réunion Teams, on demande à ChatGPT, une heure après, on a le résumé.
Parce qu'en fait, ChatGPT écoute et regarde ce qui se passe et vous condense en fait la réunion que vous venez de faire.
Et ils sont en train de le déployer. Ils ont même des produits dans la chaîne de production logistique où ils vont demander à ChatGPT d'optimiser tout ça. Donc voilà l'utilisation.
Ça va au pas de course hein, quand même, l'intégration d'OpenAI, de ChatGPT chez Microsoft.
Très vite,
hein.
Ça va très vite.
Et on termine par cette actu qui va ravir ceux qui aiment bien les enceintes connectées, puisque Sonos a annoncé aujourd'hui des nouvelles enceintes connectées, Fred.
Mon cher François, tu vas être ravi avec cette Sonos. Elle s'appelle Era 300, Era 100, Era 300. D'accord. C'est vraiment celle qui va venir concurrencer la HomePod, notamment de Apple. Alors, son Dolby Atmos, il y a six haut-parleurs, deux haut-parleurs de Medium, quatre de Twitter, donc pas mal de choses. Mais surtout, c'est dans la connectique. Oui, souvent, les Sonos, surtout les Sonos sédentaires, n'avaient pas cette connectique Bluetooth. Et bien là, ça y est, il y aura cette connectique Bluetooth. Alors, je vous passe tout l'article, hein, mais il y a pas mal d'innovations. Elle est vendue aux alentours de 500, un peu moins de 500 euros. Donc, plutôt, et puis on peut en connecter plusieurs si on veut avoir un vrai son spatial. Ils disent qu'on est vraiment le fait d'avoir les quatre sorties, on a un son qui va envahir la pièce.
Mais c'est vraiment la mode, ça, hein, des enceintes qui reproduisent un son spatial.
De Vialet faisait pareil avec sa Maniac, qui sort des deux côtés. Et donc, ils ont un plus petit modèle qui s'appelle la Sonos Era 100, qui devrait venir remplacer la Sonos One. Alors, elle est un peu moins chère, évidemment, aux alentours de 280 euros. Elle a un son, elle a moins de haut-parleurs, etc. Elle a un rendu stéréophonique, mais elle a toute la même partie connectée. Et puis, Sonos insiste aussi beaucoup sur quelque chose qu'on entend chez tous les fabricants, c'est on a des enceintes beaucoup plus respectueuses de l'environnement, donc dans leur fabrication, dans leur conception, dans leur consommation énergétique aussi. Donc voilà, donc on voulait le signaler parce que c'est vrai que ça fait partie des bonnes marques de Hi-Fi, et ceux qui nous écoutent n'hésiteront pas à aller les tester, la Era 300 et Era 100.
Voilà, et puis en plus, la bonne nouvelle, c'est que, vous le savez, Deezer, hein, notre service de streaming musical français, a passé un accord important avec Sonos pour fournir les radios Sonos avec le contenu, le catalogue de Deezer. C'est plutôt une bonne nouvelle.
Et même Apple Music et Amazon Music, on l'a en Dolby Atmos sur la Era 300, donc c'est plutôt pas mal.
Merci beaucoup Frédéric pour l'actu de ce mardi. Vous restez avec nous, Tech & Co revient dans un instant. Vous le savez, on est là chaque soir, du lundi au jeudi, 20h-22h, radio, télé et les podcasts. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Voilà, le retour de Tech & Co sur BFM Business. J'accueille Julien Velli. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Vous êtes expert produit Mercedes-Benz France et vous êtes avec nous pour nous expliquer un petit peu la stratégie digitale de Mercedes qui est en train de se mettre en place avec des informations très intéressantes, notamment concernant le soft. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'il y a de plus important dans un smartphone, finalement, alors c'est pas forcément l'appareil photo ou la batterie, c'est le soft qui tourne autour, que ce soit iOS du côté de chez Apple ou Android du côté de chez Google. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec les mêmes problématiques dans l'automobile, et Mercedes a fait le choix en fait de créer son propre système d'exploitation dans les véhicules.
Exactement.
C'est ça, Julien ?
Absolument. On a présenté il y a quelques jours le nouvel intérieur de la future classe E qui va arriver d'ici la fin d'année. Cet intérieur présente encore une fois un grand écran à bord du véhicule et la nouvelle génération de notre système d'exploitation déjà connu que l'on appelle MBUX pour Mercedes-Benz User Experience, avec de nombreux services à bord. Et cette interface, c'est l'intégration et c'est la première étape avant d'arriver à un système MBOS, notre propre système d'exploitation, qui sera intégré dans toutes nos nouvelles Mercedes, de nouvelles plateformes qu'on appelle MMA, Mercedes Modular Architecture, et donc qui sont des véhicules qui auront tous un très grand écran qui ira du montant gauche jusqu'à la porte droite, pour intégrer ce système qui offrira de nombreux services
D'accord.
à bord du véhicule.
Un écran panoramique qui fera tout le cockpit, finalement.
Oui, et qui équipera 100% de la gamme Mercedes.
Et pas forcément les voitures les plus haut de gamme. C'est
pas
ça,
forcément, en effet.
Ce qui est intéressant, c'est pour ça que je faisais au début, dans mon introduction, l'analogie avec les smartphones. C'est que finalement, l'automobile, je le dis souvent, c'est un peu aujourd'hui un smartphone sur roue. Et vous, vous avez décidé, alors que certains constructeurs confient en fait leurs données, en tout cas leur soft, à Google ou à d'autres, hein, on voit même que Apple est sur ce marché-là. En théorie, il devrait sortir aussi une interface avec des constructeurs automobiles. Vous, vous avez décidé de créer vous-même votre propre soft.
En effet, quand...
Votre propre store, en quelque sorte, aussi.
Alors, soft, store, également. Quand certains constructeurs décident de développer des systèmes en open source ou autre, Mercedes a décidé d'être son propre architecte pour créer la base, mais aussi tout ce qui va aller autour du système, en commençant, dans un premier temps, par ce qui va être le plus important pour nous, la sécurité. Sécurité des données, sécurité du système contre le piratage éventuel. Et une fois qu'on a construit ça, on va apporter, grâce à un super computer, un super ordinateur, un système de gestion complet du véhicule pour tout ce qui sera navigation, conduite autonome, service à bord, les médias, la musique, les vidéos, les jeux également, ou même des systèmes comment on appelle ça, de productivité, qui permettront d'avoir, et on le voit sur certaines images en haut du tableau de bord, une caméra qui permettra, grâce à Zoom, de suivre des vidéoconférences à bord du véhicule, à l'arrêt, par exemple quand il est en train de recharger sur une borne de recharge. Et ce système, ce super ordinateur, sera aussi capable de gérer la batterie, la recharge, l'autonomie du véhicule. Bref, tous ces systèmes-là vont être en liaison les uns avec les autres grâce à ce super ordinateur, cet OS.
Qui va donc être le cerveau central de la voiture, hein, puisque vous disiez, il gérera à la fois les fonctions d'autonomie, mais aussi le divertissement, la sécurité aussi, j'imagine. Tout ça sera connecté en 4G, 5G, j'imagine.
Alors, la connexion, c'est 5G, avec un débit qui pourrait aller jusqu'à 10 gigabits par seconde,
ce qui permettra
d'avoir une communication instantanée, en fait, des informations sur le trafic, de la situation, de ce qui se passe autour du véhicule, pour la partie conduite autonome, mais de télécharger aussi des vidéos à grande vitesse, par exemple.
Et donc, on va se retrouver avec un store sur lequel on pourra télécharger nos applications préférées, parce que c'est très courageux de lancer son propre software, mais la contrepartie, c'est qu'il y a énormément d'argent à dépenser pour développer un soft et puis après entraîner en fait toutes les applications qu'on a envie d'avoir. Est-ce qu'on aura je sais pas moi, Spotify, Apple Music, est-ce que je pourrais brancher mon smartphone et avoir Apple Car ou Google Car quoi.
Vous les avez trouvé. On aura des applications comme celle-là. On estime à peu près 1 milliard d'euros le potentiel de revenus applications et services proposés à bord des véhicules, mais il y aura, comme pour votre smartphone, des applications, et les plus importantes, qui seront fournies d'origine, de série, avec une gratuité pendant un certain temps. Je prends l'exemple aujourd'hui du Live Traffic Information, donc le service de navigation intelligente qui gère le trafic, qui est un service qui existe déjà chez nous, qui avait une gratuité qui pouvait aller jusqu'à 3 ans. C'est un service qui est très important pour nos clients. Cette gratuité va s'étendre à 7 ans. Donc on va avoir une gratuité pour certains services et d'autres qui seront proposés, comme par exemple des choses plus ludiques, comme Angry Birds, un jeu bien connu qui pourrait être proposé en option sur le véhicule.
Mais malgré tout, il y a plein de gens qui utilisent Waze. Ils pourront avoir Waze via l'interface de ce véhicule ?
Ils pourront l'avoir puisque l'intégration smartphone continue, sera toujours présente. Elle existe déjà et on pourra toujours l'avoir. Elle sera encore mieux intégrée puisque aujourd'hui il y a des systèmes un peu restrictifs qui ne permettent pas d'avoir un affichage sur toute la taille de l'écran.
D'accord.
On pourra l'avoir sur l'intégralité de l'écran. Après, le système, l'objectif du système, grâce au partenariat aussi qu'on va avoir comme Google, est d'avoir un système de navigation ultra performant et réactif en temps réel.
Eh bien voilà, premier véhicule qui aura quelques nouveautés de cette OS, ça sera l'année prochaine, visiblement, en 2024.
Alors oui, ça sera annoncé en 2024 et ça arrivera sur ces nouvelles plateformes MMA dont je parlais, qui sortiront à partir de 2025.
Merci beaucoup Julien Velli, expert produit Mercedes-Benz France. Merci beaucoup. J'accueille maintenant Jérôme Billois. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Expert en cybersécurité chez Wavestone. Alors autre sujet d'actualité qu'on évoque souvent dans Tech & Co, c'est TikTok, bien sûr. Et là, la question que tout le monde se pose, alors que les taux se resserrent, hein, évidemment des considérations géopolitiques, mais même technologiques parfois. Jérôme, la question, faut-il avoir peur d'utiliser au jour le jour TikTok aujourd'hui ?
Alors, il peut y avoir des risques à utiliser TikTok, il faut bien couper le problème en deux. Il y a un problème finalement sur la vie privée et toutes les données qu'on va mettre dans l'application. TikTok nous permet de filmer des choses, nous permet de partager des vidéos, nous permet aussi de consulter d'autres vidéos. Et donc l'appli, c'est beaucoup de choses sur nous. Et ça, ça pose un problème sur la vie privée. Mais il y a un autre problème, c'est finalement que l'application, on n'en a pas de preuve aujourd'hui, mais à un moment ou un autre, finalement, pourrait être transformée pour représenter un risque plutôt cette fois-ci d'espionnage, parce qu'on sait qu'une application, quand elle est sur le téléphone et qu'elle utilise certaines failles, peut par exemple accéder au micro, accéder aux données dans le téléphone, et ça peut représenter un risque aussi en tant que tel.
Oui, rappelons que TikTok, la maison mère de TikTok, c'est ByteDance, hein, qui est une entreprise chinoise, bien sûr. Il existe d'ailleurs une version chinoise de TikTok qui n'a rien à voir, paraît-il. Les contenus sont beaucoup plus filtrés, ils sont beaucoup plus pédagogiques. Mais la question qu'on peut se poser, c'est finalement, on le voit, il y a toutes ces interrogations de la part des gouvernements, la Commission européenne qui veut que les collaborateurs désinstallent TikTok. Jusqu'où on va aller ? Est-ce que on peut, la vision de se dire que TikTok pourrait sortir des stores des smartphones, c'est quelque chose qui pourrait être plausible ? À votre avis ?
En tout cas, c'est des projets de loi aux États-Unis qui viseraient à faire ça. Il y a un vrai échauffement aux États-Unis sur le sujet TikTok. Il y a même, dès aujourd'hui, il y a eu des contre-feux d'associations américaines de défense de la liberté d'expression qui disent « Mais n'interdisez pas TikTok, parce que si vous interdisez TikTok, vous pouvez interdire n'importe quelle autre application, n'importe quel autre usage. » Ce qu'il faut voir, c'est que finalement, le risque de TikTok en lui-même est quand même un risque assez similaire à celui qu'on pourrait avoir dans les applications de Facebook, d'Instagram, de WhatsApp. Toutes les applications qu'on met dans son téléphone, et qui, on le sait, sont pas toutes roses, hein, non plus sur le sujet de la vie privée, et qui, à un moment ou à un autre, peuvent aussi être transformées. Alors, c'est vrai que le prisme de vision n'est pas du tout le même quand on est un sénateur américain et qu'on met un projet de loi pour interdire TikTok que quand on est la Commission européenne, où là, finalement, on n'a pas les mêmes problèmes géopolitiques, finalement, à utiliser des applications américaines ou pas.
Oui, parce que c'est vrai que finalement le problème peut se poser dans l'autre sens. Et les deux points que vous releviez concernant TikTok sont valables aussi pour toutes les autres applications. D'un côté, l'addiction, hein, à tous ces services, le fait qu'ils aient accès à toutes nos données personnelles, les caméras, nos recommandations, enfin nos goûts, hein, parce que ce qu'il y a de fort avec TikTok, c'est les algorithmes, hein, qui apprennent de vos goûts, qui après vous distillent des vidéos comme ça qui vous intéressent.
Qui justement peuvent être biaisés. Et ça, c'est un des autres, des autres grandes craintes au niveau des États-Unis. C'est que finalement, vu le nombre d'utilisateurs, à un moment ou un autre, peut-être que le gouvernement chinois pourrait tourner le potentiomètre et amener du contenu qui finalement pousse une certaine idéologie et qui ne soit plus sous le contrôle finalement de ce qui se passerait aux États-Unis.
Voilà. Et en fait, les jeunes adultes, enfin tous les utilisateurs de TikTok recevraient ces vidéos en quelque sorte. Voilà.
Après. Et c'est là où, sur les jeunes adultes et les jeunes en particulier, je pense qu'il y a vraiment un message à passer à tous les auditeurs sur le fait de bien sensibiliser les jeunes qui utilisent l'application. Déjà sur le fait que le contenu qu'ils voient, c'est du contenu aussi qui peut leur être amené par quelqu'un qui décide à un moment de leur amener tel ou tel contenu. Et puis que tout ce qu'ils vont mettre eux-mêmes dans l'application, eh bien un jour pourra ressortir. Je le dis souvent, Internet n'oublie rien. Et donc, il faut vraiment, quand on est dans la logique de cette application, bien avoir ça en tête aussi.
Ouais, le droit à l'oubli sur Internet, on le voit, c'est compliqué, hein, surtout du côté de chez Google. Après, certaines voix s'élèvent en disant, bah, finalement, TikTok, enfin tout le fait qu'on pointe du doigt TikTok est dû au fait, peut-être aussi, au lobbying des autres réseaux sociaux américains qui voient en TikTok un farouche concurrent, un adversaire terrible. Il faut savoir que TikTok est en train de vraiment laminer le marché publicitaire de Meta ou de Twitter, etc. Donc on peut se dire aussi, est-ce que finalement tout ça ne serait pas, on va dire, piloté par Meta ou les autres réseaux sociaux, ou Snapchat même, qui a vu son cours de bourse exploser hier, par exemple.
Alors là, on rentre dans des considérations, on n'a pas d'éléments de preuve par rapport à ça, et on quitte un peu le domaine de la sécurité, mais c'est sûr qu'il y a des enjeux autour du chiffre d'affaires, autour du nombre d'utilisateurs, et puis autour, comme je le disais, quelque part de la capacité à savoir quelle information est poussée à qui et qui a accès à quoi. Et on en revient vraiment à la problématique de dire que derrière, il y a aussi un autre gouvernement qui a la main. Et clairement, aux États-Unis, c'est quand même assez mal vécu de voir que pour une des première fois, c'est quand même des pays étrangers qui prennent le lead sur le développement de nouvelles applications, avec l'impact que vous évoquiez sur les chiffres d'affaires publicitaires, etc., mais aussi les impacts potentiels sur la sécurité nationale si on tire le fil très très loin.
On ne peut pas garantir en fait que TikTok n'envoie pas des données en Chine. Ça, c'est impossible à vérifier aujourd'hui.
Alors oui, c'est toujours très compliqué à vérifier, surtout que le problème, c'est que à chaque fois, il y a des mises à jour. Et donc, même si on vérifie une version à un instant T de TikTok et aussi de ses serveurs, la semaine d'après, il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive, il faut tout recommencer. Et le temps de vérification pour avoir un haut niveau de confiance est tellement long que finalement, ça ne suit pas le cours de la vie de l'application. Ce qui ne rassure pas aussi, c'est que TikTok avait fait plusieurs affirmations en disant, par exemple, les données européennes restent en Europe, etc. Il y a eu des cas où ça a été prouvé et même confirmé par TikTok que des personnes en Chine avaient pu accéder aux données. Des employés de TikTok ont utilisé l'application pour pouvoir identifier où sont certains journalistes qui enquêtaient sur eux. Donc, voilà, ça c'est aussi des mauvaises pratiques qu'on voit aussi dans d'autres réseaux sociaux. Donc, faut pas non plus, Mais
il faut pas stigmatiser en fait la Chine là-dessus.
Voilà, pas spécifiquement parce que Facebook clairement a été pris la main dans le sac plusieurs fois et on trouve une posture qui est assez proche entre tous les réseaux sociaux. C'est à chaque fois ils font quelque chose qu'ils ne devraient pas faire. Ils disent excusez-nous et puis ça recommence la fois d'après.
Voilà, la guerre des réseaux sociaux avec évidemment TikTok qui est au cœur des discussions actuellement. Merci beaucoup Jérôme Billois, associé en cybersécurité chez Wavestone. Et vous restez avec nous bientôt 20h30 dans Tech & Co sur BFM Business. On revient juste après l'Info Éco. À tout de suite.
BFM Business, l'Info Éco.
20h31 sur BFM Business, il est temps de retrouver l'info éco avec Raphaël Couder. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir François, bonsoir à tous et à la une. Ce soir, cette sixième journée de manifestation contre la réforme des retraites. 3,5 millions de personnes ont défilé en France selon la CGT. 1,3 million de personnes selon le ministère de l'Intérieur. Les syndicats saluent une mobilisation historique. Ils se sont exprimés il y a quelques instants. Écoutez la porte-parole de l'intersyndicale.
Le silence du président de la République constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. En responsabilité, l'intersyndicale adressera un courrier lui demandant à être reçu en urgence pour qu'il retire sa réforme. L'intersyndicale appelle à une nouvelle mobilisation interprofessionnelle ce samedi 11 mars, puis dès la semaine prochaine à une journée de manifestation et de grève le jour de la commission mixte paritaire, moment important du calendrier parlementaire.
Voilà, donc nouvel appel à la mobilisation interprofessionnelle pour ce samedi. Et cette grève a entraîné aujourd'hui d'ores et déjà de fortes perturbations, notamment dans le secteur de l'énergie. Depuis ce matin, les expéditions de carburant sont bloquées à la sortie de toutes les raffineries françaises. Des blocages d'ailleurs reconduits sur l'ensemble des sites du groupe Total Energy, indique ce soir la CGT. De son côté, EDF annonce aujourd'hui une perte de puissance de près de 10 gigawatts sur l'ensemble de son parc nucléaire, soit l'équivalent de la capacité d'une dizaine de réacteurs. Pendant ce temps-là, le texte continue son chemin. Au Sénat, les parlementaires viennent de commencer à examiner l'article 7 de la réforme, article relatif au report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Dans l'actualité également ce soir, l'avertissement de Jerome Powell, le président de la Banque Centrale Américaine, indique que les taux de la Fed pourraient monter plus haut que prévu. Jerome Powell qui s'exprimait tout à l'heure devant une commission du Sénat américain. Écoutez.
Bien que l'inflation ait ralenti au cours des derniers mois, le processus de retour à l'objectif de 2% est loin d'être achevé et le chemin risque d'être chaotique. Les dernières données économiques sont ressorties plus fortes que prévu. Nous pensons donc que le taux terminal devra être plus élevé que précédemment anticipé. Si l'ensemble des données indique un resserrement plus rapide et justifié, alors nous serons prêts à accélérer le rythme des hausses de taux.
Voilà pour les déclarations de Jérôme Powell. Antoine Lard, bonsoir. Vous êtes le correspondant de BFM Business à Washington. Le président de la Banque Centrale Américaine a changé de discours en l'espace de seulement quelques semaines.
Oui, pendant une bonne heure et demie, Jérôme Powell a fait face au feu des questions des sénateurs américains, en particulier les démocrates, qui lui demandent de faire une pause dans la hausse des taux pour éviter de provoquer une récession. Mais très rapidement, le patron de la Fed a refroidi l'assistance en disant que la bataille contre l'inflation n'est toujours pas gagnée. Les pressions inflationnistes sont plus fortes que prévues, dit-il. Les Américains, par exemple, continuent de consommer à un niveau très élevé et le marché de l'emploi reste extrêmement tendu. Dans ce contexte, Jérôme Powell dit qu'il faudra sûrement accélérer le rythme de la hausse des taux. La Fed se réunit dans 15 jours et on s'attend désormais à un nouveau tour de vis, probablement une hausse de 0,5 points. C'est donc une douche froide parce que le mois dernier, Jérôme Powell tenait un discours bien plus optimiste en disant qu'il allait pouvoir bientôt assouplir la politique monétaire. Changement de ton donc aujourd'hui, le chemin est encore long, prévient Jérôme Powell qui se dit déterminé à poursuivre l'effort tant que le travail n'est pas fini. On le rappelle, l'objectif de la Fed, c'est 2% d'inflation. On est aujourd'hui autour de 6,5% aux États-Unis.
Merci Antoine Hollard, correspondant BFM Business à Washington. Une annonce importante dans le secteur de la distribution à présent. Le géant belge Delhaize annonce ce mardi qu'il compte passer en franchise près de 130 magasins, soit le reste de ses enseignes qui étaient encore intégrées. Alors que le secteur fait face à de nombreux défis, le passage en franchise est de plus en plus privilégié. Pauline Tadevin.
La direction de Delhaize n'y va pas par quatre chemins. La seule solution, dit-elle, pour faire repartir les supermarchés face à la concurrence, au e-commerce, à l'inflation et aux nouvelles attentes des consommateurs, c'est de faire passer la totalité de son parc de magasins en franchise. Elle estime que la souplesse inhérente au modèle, la proximité du client et la force de l'entrepreneuriat sont les clés pour regagner des parts de marché. Les chiffres l'attestent, d'après Delhaize, alors que ses magasins intégrés perdent des parts de marché, ses 636 franchisés en gagnent. En France, en plus des groupements d'indépendants, Leclerc, Intermarché et Système U, d'autres enseignes comme Casino et Carrefour développent massivement ce modèle malgré l'opposition des syndicats. Dans son plan stratégique, Carrefour prévoit d'ailleurs que plus de 90% des nouvelles ouvertures de magasins en Europe se feront en franchise d'ici à 2026 et que ce sera dupliqué à l'international.
Dans l'actualité des entreprises également ce soir, Airbus retrouve des couleurs en février. L'avionneur a livré 46 appareils à ses clients le mois dernier après un mois de janvier catastrophique. L'avionneur rencontre effectivement des difficultés à accélérer sa cadence de production depuis la fin de la pandémie. Il espère remonter à un rythme de 65 avions livrés par mois d'ici à la fin de l'année prochaine. Et puis Twitter qui s'enfonce un peu plus dans la crise. Panne en série, nouveau licenciement, problème de modération, chute du chiffre d'affaires. Rien ne va plus dans l'entreprise rachetée par Elon Musk. L'an dernier, le milliardaire apparaît de plus en plus isolé dans sa reprise en main du réseau social. Simon Tenenbaum.
Il ne se déplace plus dans les locaux de Twitter qu'entouré de deux gardes du corps, y compris pour aller aux toilettes. Une anecdote qui en dit long sur l'ambiance en ce moment entre Elon Musk et les employés du réseau social. Autre séquence étonnante avec cette conversation tendue sur Twitter entre un employé et Elon Musk. Le salarié dit que l'accès à son ordinateur a été coupé depuis plusieurs jours et que les ressources humaines ne savent pas lui dire s'il a été licencié. Le milliardaire confirme sèchement le limogeage devant ses millions de followers. Avec ses licenciements qui s'enchaînent, Twitter compterait maintenant moins de 2000 employés et seulement 550 développeurs qui doivent appliquer en un temps record les réformes voulues par Elon Musk. De quoi expliquer les pannes à répétition, au moins 6 depuis le début de l'année et encore une hier, qui a visiblement été déclenchée par une simple erreur de configuration d'un seul ingénieur, ce qui en dit long sur la faiblesse de l'édifice, le tout avec une équation financière toujours aussi précaire, une baisse de 40% des revenus selon les tout derniers chiffres.
Allez, un point sur les marchés à présent. Le CAC 40 a fini en baisse ce soir de 0,46% à 7339 points. Et le chiffre du jour, il est à aller chercher sur le marché allemand, Haute-Kersulec. Zalando décroche de plus de 3% en clôture après ses résultats annuels.
Oui, alors c'est vrai que c'est un titre qui fait les frais de la volatilité du jour hein, sur les marchés parce que Zalando, le titre avait passé le début de sa journée dans le vert, donc victime de Jérôme Powell, de la sévérité du président de la Réserve fédérale et de son discours aujourd'hui devant le Sénat. Mais Zalando, victime aussi du jugement des investisseurs après la publication de ses résultats annuels. Alors pour le numéro 1 européen de l'habillement en ligne, eh bien les perspectives de revenus ont été jugées pas assez impressionnantes hein, par les analystes, en dessous en tout cas de leurs attentes. Le chiffre d'affaires devrait continuer de se replier légèrement cette année en 2023, avant peut-être en 2024 de reprendre une croissance à deux chiffres, hein, autour de 15%. Alors pourtant, il y a quelques semaines, Zalando avait engagé une opération de réduction de coûts, hein, notamment beaucoup de suppressions d'emplois, comme beaucoup de plateformes américaines. Zalando espère donc un effort marqué sur la rentabilité. Après 1,8% de rentabilité opérationnelle, Zalando espère revenir dans une fourchette de 3 et 6% d'ici 2025. Mais ça, c'est jugé comme un exercice difficile, hein, pour les investisseurs qui sanctionnent aujourd'hui la valeur, qui perd donc un petit peu plus de 3% sur le DAX à Francfort.
Merci beaucoup, Odile. 20h40 sur BFM Business. Tech & Co revient dans un instant et on va mêler, comme régulièrement, et on adore ça, la tech et le cinéma, et notamment s'intéresser dans un instant à un film qui date du milieu des années 80 qui s'appelle Wargame. On en parle avec Xavier Perret. À tout.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Et oui, la tech et le cinéma font bon ménage, vous le savez, on en parle souvent dans Tech & Co avec Xavier Perret qui est avec nous ce soir. Bonsoir Xavier.
Bonsoir François.
Directeur de l'entité Azure chez Microsoft France, donc le roi du cloud mais aussi un passionné de cinéma. Et c'est vrai qu'on aime bien mixer les scénarios de science-fiction de certains films qui ont 30, 40, 50 ans et se projeter et se dire, bah tiens, à l'époque on avait inventé ça, bah aujourd'hui ça existe. C'est un peu ça le thème de cette émission et de ce rendez-vous. Et Xavier, la dernière fois tu nous avais évoqué le film Her de Spike Jonze et tu nous avais dit en fin de chronique que tu allais proposer à ChatGPT de nous trouver le thème
le prochain
de ce rendez-vous en ce 7 mars.
Ouais, et on a trouvé un bien, justement, un très très bien, c'est War Games. Donc War Games, c'est un film de 1983, ça va être important, hein. C'est un film de John Badham, qui est pas à peine connu, on va dire. C'est le réalisateur de La Fièvre du Samedi Soir, autant dire que ça n'a aucun rapport, hein.
Ah ouais.
Derrière, voilà, c'est un peu une comédie d'adolescent, hein, derrière. Puis c'est surtout devenu culte, ce film, pour tous les geeks de l'époque, dont moi, parce que c'est vrai, j'avais 10 ans à l'époque, j'ai eu mon premier ordinateur vers cette époque-là. Donc et tout, ouais. Voilà, 83, c'est l'époque des disquettes ou des floppy disques, hein. Et quand j'ai des floppy disques, c'est pas les disquettes 3 pouces et demi. Pour ceux qui savent, c'est les 5 pouces 1 quart qu'on voit dans le film derrière.
C'est les grosses disquettes.
C'est les grosses disquettes.
C'était souple,
voilà.
D'ailleurs.
C'est 83, c'est l'année d'adoption du TCP/IP, qui est le protocole d'Internet. Mais le mot Internet n'existait pas. Il est apparu 6 mois après. Et à cette époque-là, il y a à peu près 1000 ordinateurs seulement connectés. C'est l'apparition du Lisa d'Apple. Le premier ordinateur avec une interface graphique, donc on est loin, loin, loin derrière l'internet derrière. Même il va falloir attendre 8 ans pour avoir l'annonce publique du World Wide Web, hein, quand même, de Tim Berners-Lee. Voilà, le scénario, il est intéressant. Donc c'est surtout le scénariste qui m'est intéressé parce qu'il a passé 10 ans au ce qui s'appelle le SRI, c'est-à-dire le Stanford Research Institute. Et puis il a vu le premier nœud ou le deuxième nœud internet derrière, puis ça l'a inspiré sur un certain nombre de choses. Voilà derrière. Donc l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas ce film, c'est on est en pleine guerre froide, on est dans les années 80. Voilà, entre les États-Unis et la Russie, voilà, ça résonne aussi, encore une fois. Et puis David Lightman, c'est un petit jeune qui est joué par Matthew Broderick, qui est tout jeune, celui qui joue dans La Folle Journée de Ferris Bueller, voilà, un super film aussi. C'est un petit pirate informatique, sympathique, voilà, qui joue, qui va un peu hacker.
Un peu rebelle aussi.
Un peu rebelle, un peu qui veut frimer,
enfin, un peu ado,
avec sa copine,
quoi.
Complètement ado, et qui va, via son PC, qui est, alors si je le retrouvais pas, un IBM IMSAI 8080, voilà, de l'époque, avec un modem analogique.
Donc derrière. C'était des ordis qui existaient vraiment, hein,
c'était
qui ont
des
été
ordis,
transposés dans le film.
Des ordis, exactement, qui n'étaient pas tellement déployés à l'époque, hein, derrière. Ouais. Puis il va hacker d'abord l'équivalent du Parcoursup de l'époque, en fait, pour changer ses notes, pour frimer devant sa copine. Et puis surtout, il va hacker, en fait, le système de défense national, enfin américain derrière, qui s'appelle le NORAD, voilà, le Pentagone, hein, voilà, et puis il va jouer avec une espèce d'IA, on va le voir, puis il va croire que c'est une simulation, il va choisir même le jeu de la guerre thermonucléaire globale, voilà, puis ça va semer la panique derrière, puisque voilà, le jouer, il croit se connecter en fait à un serveur de jeux vidéo, déjà, voilà, en cloud gaming finalement, et puis non, il va se connecter, voilà, ce serveur de défense du Pentagone.
Alors on est il y a 40 ans en arrière, hein, c'est dingue.
Ah ouais, hein, il y a 40 ans.
Et en fait, ce sujet résonne encore d'une manière incroyable. On est dans la cybersécurité, le hacking, et en quoi ce film est innovant finalement?
Ah, en fait, c'est le premier film de hacker. C'est considéré d'ailleurs par Sergey Brin comme le film qui lui a donné envie d'être un peu nerd cool. Puisque c'était l'époque des nerds cool, hein.
Ouais, ouais.
Voilà, ce Matthew Broderick. Le Wargame, évidemment, c'est le jeu de simulation thermonucléaire, le jeu de la guerre, voilà. C'est aussi le Wargame, la définition d'une technique de cybersécurité. Voilà, c'est la définition, c'est un défi de cybersécurité dans lequel les concurrents doivent exploiter ou défendre la vulnérabilité d'une application afin de gagner ou empêcher l'accès d'un système informatique. Donc, c'est le premier film, finalement, d'un sujet de hacker. Et d'ailleurs, ça va résonner de cette façon-là, mais on voit les premières techniques de hacker, Alors il y en a deux, hein, simplement. Il y en a une qui s'appelle le Demon Dialing. C'est le fait qu'il va sans arrêt, son PC finalement va appeler tous les téléphones de l'époque. Et puis dès qu'il en chope un qui est un ordinateur, bah, il va essayer de s'y connecter. Donc ça s'appelle le Demon Dialing, qui va être très utilisé pour frauder en fait les compagnies téléphoniques à l'époque. Et puis le deuxième, qui est très simple, hein, c'est qu'il va usurper l'identité. Voilà, pour se connecter au serveur. Alors, il va faire simple, il va prendre le master admin password, hein, comme on dit, hein, c'est-à-dire celui du créateur de l'IA, hein, qui est le professeur Falcon, donc Falcon, et puis le password, c'est le nom de son fils décédé, Joshua. Voilà, donc assez simple, on peut dire, il n'y a pas tellement de sécurité là-dessus. Mais voilà, donc c'est un basique problème de mot de passe.
Hein, mais on était en 1983, hein, déjà, on avait ces réflexes-là.
Hein, ouais, et en 1983, après, ça va donner en hommage, voilà, l'une des plus grandes conventions de défense et de sécurité, ça s'appelle le DEFCON, en hommage, en fait, au SFIN, puisque c'est les différents niveaux de sécurité qui vont être passés, les DEFCON 1, 2, 3, 4. Et puis surtout, l'histoire raconte que, elle a été racontée par le New York Times il y a quelques années seulement, que Ronald Reagan avait vu le film à l'époque, puis il s'était dit, ah, qu'est-ce qui se passe derrière? Il avait demandé à ses conseillers militaires, est-ce que c'est possible aux États-Unis? Ces conseillers militaires ont mis une semaine à revenir vers lui et dire, bah en fait, je lis texto, monsieur le président, la situation est bien pire que vous ne le pensiez. Et donc la NSA va proposer, alors va reconnaître que le développement des réseaux va entraîner ces problèmes de sécurité, déjà à l'époque, et ça sera 18 mois plus tard la première directive présidentielle sur la sécurité informatique, la NSDD 145. Donc comment un film finalement va déclencher une politique de cybersécurité dans les années 80.
Alors, ce film, donc, il y a, vous l'avez compris, de la cybersécurité, du hacking, mais c'est aussi un film qui, parle d'IA, d'intelligence artificielle, mais aussi de ChatGPT.
Eh oui, puisque, encore une fois, alors, on avait vu Heure la dernière fois, il y a une dizaine d'années, ce film, mais là, dès les années 80, en fait, Matthew Broderick, qu'on voit, va converser avec une intelligence artificielle qui s'appelle Joshua, en mode texte d'ailleurs, puisqu'il y a du son, c'est vrai, un peu synthétisé, comme à l'époque, hein, finalement, mais c'est juste pour un effet de rythme de film derrière, hein, le reconnaîtra le réalisateur, mais c'est une forme de ChatGPT fine-tuné, c'est-à-dire qu'il va être sur un certain corpus, un certain domaine, qui est celui des jeux, en l'occurrence, puisqu'il croit qu'il est sur une console de jeu. Donc on est déjà dans une interaction. Il y a une scène assez amusante dans laquelle Matthew Broderick va dire « Ah, bah tu sais quoi, je vais prendre on va acheter un vol pour Hawaï. » Et puis l'IA va lui répondre « Mais t'es en train de fuir les États-Unis. Hein. » Et il répond « Non, non, je suis juste en train de frimer vis-à-vis de ma copine. » Donc on retrouve un peu cet étonnement, cette fascination pour le ChatGPT. On est déjà le premier ChatGPT derrière.
Et c'est aussi, et tu le dis, le premier jailbreak de l'histoire du cinéma.
Alors voilà, c'est ça qui est étonnant. Alors un jailbreak, c'est quoi? On connaît les jailbreaks sur les téléphones. Oui. C'est-à-dire comment je vais
percer le soft et oui, voilà.
Trouver la faille, voilà, en termes de sécurité pour déverrouiller, avoir accès au système d'information. Le jailbreak, c'est aussi une technique de cybersécurité pour tester des systèmes d'information, pour tester des IA aussi, pour tester jusqu'au bout des IA. Et finalement, que fait dans l'histoire, sans vouloir spoiler jusqu'à la fin, hein, mais évidemment, ça va bien se finir. Voilà, mais Matthew Broderick va tester aux limites et va prendre à son propre jeu l'IA. Voilà, en lui montrant, parce que Joshua Dia va dire, moi le but c'est de gagner la guerre, il va lui montrer que ça ne sert à rien en lui faisant jouer plein de parties dans tous les sens de cette guerre thermonucléaire simulée pour montrer qu'à la fin personne gagne, donc ça sert à rien de jouer. Bah, c'est une technique de jailbreak relativement classique, assez primaire c'est vrai, mais c'est une technique de jailbreak de hacker en fait derrière. Ouais. Et c'est la première fois qu'on voit ça au cinéma.
Incroyable. Bon, on le disait, 1983-2023, ce film a pile 40 ans.
Ouais.
Évidemment, il était en avance sur son temps. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce film aujourd'hui ?
Retenir deux choses. D'abord, on va protéger ses mots de passe. Hein, derrière, c'est la première chose. C'est peut-être déjà de changer ses mots de passe et surtout l'authentification double via mobile.
Alors, et ne mettez pas Joshua, s'il vous plaît.
Il n'y en avait pas. Donc, mettez pas Joshua dans vos mots de passe et surtout faites une authentification double par mobile. Il n'y avait pas de mobile à l'époque, hein, dans les années 80. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce film pose la question de en quoi sert l'IA, cette fascination qu'on a pour la data l'IA. Tout le sujet est sur est-ce que l'IA va prendre des décisions à ma place ? La réponse dans ce film, elle est très claire. Et je pense que c'est le sujet indirect de tout ce qu'on voit sur ChatGPT, c'est non, l'IA doit être un copilote pour nos prises de décision raisonnées derrière. Donc c'est une belle morale. Je finirai sur cette phrase. Hein. À un moment donné, il y a une discussion avec le général qui va peut-être appuyer sur le bouton nucléaire. Et t'as le petit Matthew Broderick qui dit « Général, vous écoutez une machine, faites-moi plaisir, n'agissez pas comme une machine ».
Pas mal.
Belle morale d'histoire, je pense, surtout notre société data-driven.
Et qui est toujours valable et encore plus valable
encore
aujourd'hui
plus
avec ChatGPT et toute cette intelligence.
Et tout ce sujet à quoi ça sert en termes de copilotage, finalement, de nos prises de décision derrière.
Merci beaucoup, Xavier Perret, donc directeur de l'entité Azure chez Microsoft France. Et tu viendras bientôt nous parler, justement, de toute cette stratégie d'IA.
Pour les entreprises
Microsoft.
Et l'impact, avec plaisir, par rapport à
l'intégration de Bing aussi.
Exactement.
Tiens, pour l'information, si les propos de Xavier vous ont donné donnait envie de voir War Games. Il n'est pas disponible sur les Netflix, Amazon Prime, etc. Il est en revanche sur MyCanal, sur Ciné+.
Exactement.
Voilà.
En ce moment,
si vous êtes abonné,
vous pouvez le revoir. Sinon, il est en VOD. On peut pouvoir le retrouver en VOD.
Merci beaucoup, Xavier.
Merci, Pierre. François.
Et tout de suite, direction New York, on retrouve Sabrina Cagliozzi.
Tech & Co. What's up, New York?
Bonsoir, Sabrina. Ravi de te retrouver en ce mardi soir.
Bonsoir, François.
Sabrina, on va débuter par cette mauvaise nouvelle signée Meta. On avait vu cette vague de gros licenciements en novembre. Eh bien, ça se poursuit visiblement. Il y en aurait encore sous le pied du côté de Mark Zuckerberg.
Oui, c'est ce que rapporte l'agence Bloomberg. Plusieurs milliers de suppressions de postes, François, devraient être annoncées dès cette semaine. Un plan qui ferait suite eh bien, à un autre bien plus vaste qui a entraîné le départ de 11 000 employés. C'était en novembre 2022. On en avait beaucoup parlé. C'était 13% des effectifs mondiaux. On avait eu également un gel des recrutements, réduction de la surface immobilière du groupe. Bref, cure d'austérité. Première historique pour le réseau social qui a été justifiée par le recul, lui aussi inédit, des recettes de Meta l'année dernière. Mark Zuckerberg avait à cette occasion reconnu avoir péché par optimisme en recrutant beaucoup trop, plus de 15 000 collaborateurs lors de la crise du Covid-19. Du coup, on rectifie le tir aujourd'hui. Rappelons qu'après cette année 2022, compliqué, Meta a placé 2023 sous le signe de, je cite, l'efficacité. Il l'a rappelé aux analystes récemment. Meta a revu à la baisse ses investissements pour l'année en cours. Il a proclamé l'intelligence artificielle priorité du groupe. L'objectif étant donc pour Meta de relancer sa croissance, de reconquérir la confiance de ses investisseurs. Le message passe à Wall Street puisque le titre Meta évolue depuis le début de la séance sur une note hésitante, mais alors faut dire, ça n'a rien à voir. On a les commentaires de Jérôme Powell qui pèsent lourdement aujourd'hui sur la séance à Wall Street. On résiste sur ce titre qui cède un petit 0,11%, mais c'est du rouge vif pour l'ensemble du compartiment technologique. Donc, nouveau licenciement, a priori, dès cette semaine à venir pour Meta qui continue sa cure d'austérité. François.
Oui, et ça risque de donner aussi des inspirations à d'autres, finalement, cette deuxième vague de licenciements, puisqu'on le voit carrément aujourd'hui, si on ne licencie pas dans ces géants américains, c'est qu'il y a un problème. Dans l'actualité aussi, Sabrina, tu voulais nous faire un coup de projecteur sur une start-up qui s'appelle Sidekick, avec un navigateur qui est dédié au travail pour aider les personnes atteintes de TDAH, qui est un peu des troubles du comportement, de la concentration.
Ouais, Sidekick qui est en fait une société, une start-up qui a fait partie de la promo 2020 du célèbre Y Combinator. La société a levé en mars 2021 2 millions de dollars auprès d'un groupe d'investisseurs mené par Kleiner Perkins. C'est du lourd. Ils ont surfé en fait sur la vague du travail en ligne avec ce constat. La navigation sur Internet se fait via un navigateur conçu pour la recherche et non la productivité, page qui charge lentement, publicité ou autre, pour optimiser son temps. Un navigateur qui est dédié au travail en ligne et est un plus, c'est ce que propose donc Sidekick, ce navigateur web qui est basé sur Chromium, qui est conçu pour tous ceux qui travaillent donc en ligne. L'expérience de recherche a été entièrement revisitée, retravaillée autour du travail dans des applications web, là où la majorité du temps est passé. Grâce à Sidekick, toutes les applications utilisées au quotidien dans le monde du travail, Slack ou encore Dropbox, sont accessibles directement via une seule et même interface. Sur le côté gauche, via une barre latérale, les icônes des différentes applications sont affichées et indiquent les notifications. Vous avez aussi la possibilité d'effectuer une recherche au sein de toutes les applications, l'historique de navigation, les contacts ou encore les documents via une seule barre de recherche. Sidekick est en fait plus rapide que les autres moteurs de recherche, c'est la promesse, grâce à un ad blocker intégré et aussi à l'utilisation de l'intelligence artificielle afin d'utiliser la même quantité de mémoire. Aujourd'hui donc, tu vas me dire quel rapport avec l'introduction, l'explosion des startups dédiées aux troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Les cas sont de plus en plus nombreux chez les enfants, chez les adolescents, chez les adultes. Or, selon plusieurs études, les adultes atteints de troubles du déficit de l'attention perdent en moyenne 22 jours de productivité par an. Sidekick veut donc régler ce problème, aider toutes ces personnes et les entreprises. La société a levé le voile aujourd'hui sur toute une série de nouvelles fonctionnalités destinées aux personnes atteintes de troubles du déficit de l'attention, en plus bien sûr de ce que propose déjà la plateforme, hein, et qui est de nature en fait à les aider. Déjà les utilisateurs du navigateur ont en effet noté une amélioration de leur productivité grâce à Sidekick, en éliminant toutes les distractions qui peuvent intervenir lors de l'utilisation d'un moteur de recherche traditionnel. C'est donc là le lien, et c'est là qu'a eu l'idée Sidekick. Donc l'abonnement pour la société, c'est le modèle, business model Sidekick prévoit de générer des revenus grâce à l'abonnement d'entreprises qui n'hésiteront pas, selon la start-up, à payer pour améliorer la productivité de leurs employés. Donc, petit clin d'œil à cette société, donc Sidekick, qui lève le voile sur ses fonctionnalités bien particulières.
Ouais, et bien sympathique. Merci beaucoup, Sabrina Cagliozzi, depuis New York. Et on se retrouve demain soir, bien sûr. Bientôt 21h sur BFM Business. Tech & Co revient avec au menu de notre deuxième partie. On va s'intéresser à cette 9e édition du concours French IoT Impact et Technologies de la Poste. On va vous expliquer de ce dont il s'agit, puis on recevra deux startups qui y participent. Et puis en deuxième partie de Tech & Co, ce sera notre rendez-vous French Tech et deux startups Food Tech qui seront sur le plateau de Tech & Co. Attention, on va parler d'insectes et d'algues. Voilà, mais il paraît que c'est appétissant. On confirmera tout cela en toute fin de Tech & Co. Merci de nous suivre. Dans un instant, Frédéric Simotel me rejoint pour l'Actu Tech de ce mardi 7 mars. Merci d'être là et à tout de suite.
Le grand live du numérique avec François Sorel.
Et l'Actu Tech de ce mardi soir, c'est avec Frédéric Simotel. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Heureux de te retrouver, mon cher Fred, journaliste à BFM Business. Et dans l'actualité, eh bien, on va évoquer la 5G, mais la 5G en Allemagne, ça se fera sans les acteurs chinois.
Oui, Frédéric. En tout cas l'Allemagne, on n'a aucune confirmation pour l'instant, mais en tout cas l'Allemagne songe sérieusement et très sérieusement à limiter d'utiliser ces composants 5G pour qui viennent de chez Huawei, de chez ZTE, donc évidemment des fournisseurs chinois, et donc a prévenu ses opérateurs que ils étaient en train d'étudier la question, qu'il fallait qu'ils se préparent à changer certains composants de leurs équipements, alors des antennes, même des composants internes, et tout ça en leur disant attention, vous allez le faire, mais à vos frais. Hein. Nous, on veut rien savoir. Ce que l'on, alors évidemment toujours la même chose, c'est les histoires d'espionnage supposé de la part des opérateurs, enfin des fournisseurs chinois, hein, qui auraient, alors ça n'a jamais été prouvé, mais qui, comme il y a beaucoup de logiciels à l'intérieur, pourraient récupérer des data, et les opérateurs, vous imaginez, tout passe par là. Donc pour l'instant, aucun opérateur n'a été interdit d'utiliser les technologies de ZTE et de Huawei, mais
petit à petit, on y va.
On est vraiment en train d'y aller.
Après, c'est une longue histoire qui dure depuis longtemps. On se souvient qu'il y avait eu ces mêmes pressions en France, notamment pour certains opérateurs. Hein.
Exactement. Alors, ce qui est embêtant, c'est parce qu'à la limite, Huawei commence, eux, lorsqu'on les rencontre, ils nous disent toujours, mais nous, s'il y a un cadre, on se fie au cadre et tout ça. Après, Huawei, ce qui pourrait être inquiétant, c'est si, qu'il n'y ait pas les opérateurs, ils commencent à s'y habituer, et je pense qu'ils ont compris que du côté occidental, ça pourrait mal se jouer. C'est si on tombe dans le domaine des entreprises, parce que là, Huawei,
même si on en parlait avec Huawei l'autre jour, qui à l'occasion de ses 20 ans de présence en France avait fait un événement, il disait qu'aujourd'hui la 5G c'est moins de 10% de leur chiffre d'affaires en France. Malgré tout, ils continuent à développer, ils continuent à investir, et puis dans les entreprises, il y a beaucoup de projets 5G, et Huawei peut être très présent dans ces projets 5G. Donc si on interdit aux opérateurs, pourquoi on n'interdirait pas un jour aux entreprises? C'est ça qui est un peu dangereux. En tout cas, voilà, les porte-parole de ZTE, de Huawei disent toujours, nous, il n'y a eu aucune preuve, on tient nos codes sources à la disposition de tout le monde. Donc voilà, on attendra la suite à nouveau.
Voilà, les taux se resserrent sur toutes les technologies chinoises. On parlera tout à l'heure de TikTok aussi, Frédéric, bien sûr. Dans l'actualité, c'est Meta. Meta qui, après une grosse vague de licenciements, on en a beaucoup parlé, on avait commenté ces chiffres il y a quelques semaines dans Tech & Co, eh bien, aurait encore une deuxième vague de licenciements prévue.
Oui, petit rappel, donc on est en novembre. Meta annonce son plus grand plan de licenciement. Même, c'était vraiment eux qui lançaient un peu ces plans de licenciement dans la tech, parce que derrière, tout s'est enchaîné. Alors, Twitter, c'était un peu différent parce que Elon Musk voulait faire un peu le ménage, mais enfin on a quand même vu chez HP, chez Dell, tout le monde a suivi derrière. Pardon. Et donc là, rappelez-vous, en novembre, c'était 11 000 personnes sur 87 000 quand même qui étaient licenciées.
Ça fait 13% de la masse salariale.
Oui, alors à l'époque, on disait oui, mais ils ont quand même eu 27 000 embauches en 2020-2021. Donc au final, ça ne fait que 15. Enfin,
le solde est positif.
Le solde est positif de 15 000 arrivées. Et puis là, évidemment, Zuckerberg expliquait ça à l'époque, au-delà de l'inflation, du choc énergétique, Zuckerberg citait l'échec de sa stratégie de croissance dans l'e-commerce, puisqu'on a vu les chiffres de pub étaient moins bons, la concurrence plus forte avec TikTok notamment, et puis ralentissement des dépenses des annonceurs, cette concurrence. Et bien là, on apprend que là on passe à la phase suivante. C'est maintenant qu'on a enlevé un peu de gras, et bien on va continuer, on va aller sur l'efficacité, et là on va encore licencier, mais pas quelques centaines, on parle de quelques milliers. Alors on n'a aucun chiffre
précis.
Ça reste quand même, donc aujourd'hui 87 000 moins 11, ça fait 76 000, même 10 000 personnes en moins. Alors Mark Zuckerberg lui veut réduire les coûts de l'entreprise. Il a vu que lorsqu'il réduisait ses coûts, ça fait plaisir à qui? Aux actionnaires. Le cours de bourse remonte en général, et puis il espère un peu inverser la tendance, cette tendance un peu à enfoncer un peu Meta autour de tout le métaverse qui a du mal à décoller. Là c'est l'intelligence artificielle, donc Meta mise énormément sur l'intelligence artificielle.
TikTok qui prend des parts d'audience régulière.
Oui, puis certains se demandent si lorsqu'il a commencé à parler de Meta, du métaverse, c'était pas un peu pour cacher un peu les pertes qui s'annonçaient. On se souvient aussi comme Apple, parce que ça c'était un sacré coup aussi, Apple qui a empêché
qui a bloqué la publicité.
Tracking. Là, ça lui a fait un gros coup. En tout cas, Meta espère réduire ses coûts, être plus efficace et repartir à l'attaque à nouveau avec moins de personnel. Alors après, quand on s'intéresse de près aussi, quand on rentre un peu dans ces entreprises, qu'on connaît quelques contacts à l'intérieur, ils nous disent aussi que ça grossit tellement vite. Enfin voilà, imaginez dans une entreprise aujourd'hui faire rentrer 20 000 personnes, leur attribuer les projets. On a des managers qui ne font plus qui sont des grands DRH alors que c'était des chef de projet très brillant. Donc là aussi, il y a un peu d'efficacité à retrouver.
Dans l'actualité aussi, c'est Free, l'opérateur télécom, qui propose depuis aujourd'hui un nouveau service de streaming sans surcoût, mais qui est réservé à ses abonnés et qui est financé par la pub.
Il se la joue Netflix, voilà.
C'est ça.
Et ce service s'appelle Oki. OQ, ça veut dire OQEE, alors le où vous voulez, quand vous voulez, voilà, le O et le Q de quand, et le EE, c'est free, évidemment. Donc c'est un service donc de vidéo à la demande avec publicité, tu l'as dit, donc 300 films et séries. Alors il y a des gros blockbusters, Limitless, Godzilla, Hellboy, il y a les incontournables du cinéma, la rencontre du troisième type, le dernier des Mohicans, il y a quelques séries américaines, Startup, Taken, ou celle de la BBC, quelques séries françaises d'un peu de moins d'importance, mais voilà, sera en visibilité continue. Voilà, on pourra regarder autant de temps que l'on veut. Ce sera en illimité. Voilà, je cherchais le terme. Et donc, on a ce nouveau service sans surcoût, on le rappelle quand même, et financé par la pub. Donc, plutôt une initiative à saluer. Puis, on va voir comment ça se comporte. Je pense que toutes les plateformes de VOD vont commencer à regarder un peu ce système. Et c'est vrai que Netflix, on le voit avec son système de pub. Ça n'a pas desservi la marque.
Après, c'est intéressant de voir que finalement,
Free renoue avec cette stratégie d'opérateur de proposer du contenu aussi. Hein. Oui. Certains en sont revenus. Mm-hmm. Ça a été le cas d'SFR, Orange. Bah, Free va dans l'autre voie, à voir si effectivement ça fonctionne. Dans l'actu aussi de ce mardi 7 mars, Fred, c'est Microsoft qui injecte eh bien, de l'intelligence artificielle dans énormément de ses outils.
Oui, ils appellent ça Copilot, donc avec ChatGPT, bien entendu. Et là, alors, on avait parlé de ChatGPT qui était intégré à Bing. Et bien là, maintenant, on parle de ChatGPT qui est intégré à toute l'offre Dynamics. Alors, l'offre Dynamics, c'est toute l'offre d'ERP, donc des logiciels pour gérer les entreprises, des offres de CRM pour la gestion de la relation client. Et donc, le but, c'est de ceux qui vont utiliser ces logiciels, créer des suggestions de segmentation de clientèle, voilà, de demander à ChatGPT, nous dire, tiens, je voudrais avoir que tel type de client. Et donc, ChatGPT va aller les chercher dans les bases. Obtenir des idées pour des campagnes de emailing. Voilà, trouve-moi de nouvelles idées en donnant quelques détails. Pour tous ceux qui ont testé ChatGPT, vous imaginez bien comment tout cela peut servir. Côté e-commerce aussi, alors il y aura Dynamics 365 qui utilisera des listes de produits, qui va dire à ChatGPT, sors-moi les meilleures caractéristiques de chacun des produits du catalogue. ChatGPT va aller les chercher. Alors les techniciens pourront utiliser aussi pour répondre automatiquement aux emails, les FAQ, alors souvent on nous dit à les consulter. Bien là, il y aura des réponses automatiques qui seront générées par ChatGPT. Et puis on va aussi avoir arrivé ce copilote, hein, tel que le décrit Microsoft, dans les conversations par courriel, par Teams, qui vont pouvoir faire des résumés. Vous avez une série de mails, on a tout ça, hein, un long thread de mails, mais à la fin c'est ChatGPT, résume-moi tout ce qui se dit dans
tout ce qui s'est passé dans la journée.
Donc c'est plutôt pas mal. Teams pareil, ça pour l'avoir vu fonctionner, ça marche plutôt bien. Donc réunion Teams, ouais. On demande à ChatGPT, une heure après on a le résumé.
Parce qu'en fait ChatGPT écoute et regarde ce qui se passe et vous condense en fait la réunion que vous venez de faire.
Et ils sont en train de le déployer, ils ont même des produits dans la chaîne de production logistique où ils vont demander à ChatGPT d'optimiser tout ça. Donc voilà l'utilisation.
Ça va au pas de course hein, quand même, l'intégration d'OpenAI, de ChatGPT chez Microsoft.
Ça va très vite.
Et on termine par cette actu qui va ravir ceux qui aiment bien les enceintes connectées, puisque Sonos a annoncé aujourd'hui des nouvelles enceintes connectées, Fred.
Mon cher François, tu vas être ravi avec cette Sonos. Elle s'appelle Era 300, Era 100, Era 300. D'accord. C'est vraiment celle qui va venir concurrencer la HomePod, notamment de Apple. Alors, son Dolby Atmos, il y a six haut-parleurs, deux haut-parleurs de Medium, quatre de Twitter, donc pas mal de choses. Mais surtout, c'est dans la connectique. Oui, souvent, les Sonos, surtout les Sonos sédentaires, n'avaient pas cette connectique Bluetooth. Et bien là, ça y est, il y aura cette connectique Bluetooth. Alors, je vous passe tout l'article, hein, mais il y a pas mal d'innovations. Elle est vendue aux alentours de 500, un peu moins de 500 euros. Donc, plutôt, et puis on peut en connecter plusieurs si on veut avoir un vrai son spatial. Ils disent qu'on est vraiment le fait d'avoir les quatre sorties, on a un son qui va envahir la pièce.
Mais c'est vraiment mode, ça, hein, des enceintes qui reproduisent un son spatial.
De Vialet faisait pareil avec sa Maniac, qui sort des deux côtés. Et donc, ils ont un plus petit modèle qui s'appelle la Sonos Era 100, qui devrait venir remplacer la Sonos One. Alors, elle est un peu moins chère, évidemment, aux alentours de 280 euros. Elle a un son, elle a moins de haut-parleurs, etc. Elle a un rendu stéréophonique, mais elle a toute la même partie connectée. Et puis, Sonos insiste aussi beaucoup sur quelque chose qu'on entend chez tous les fabricants, c'est on a des enceintes beaucoup plus respectueuses de l'environnement, donc dans leur fabrication, dans leur conception, dans leur consommation énergétique aussi. Donc voilà, donc on voulait le signaler parce que c'est vrai que ça fait partie des bonnes marques de Hi-Fi, et ceux qui nous écoutent n'hésiteront pas à aller les tester, la Era 300 et Era 100.
Voilà, et puis en plus, la bonne nouvelle, c'est que, vous le savez, Deezer, service de streaming musical français, a passé un accord important avec Sonos pour fournir les radios Sonos avec le contenu, le catalogue de Deezer. C'est plutôt une bonne nouvelle.
Et même Apple Music et Amazon Music, on l'a en Dolby Atmos sur la Era 300, donc c'est plutôt pas mal.
Merci beaucoup Frédéric pour l'actu de ce mardi. Vous restez avec nous, Tech & Co revient dans un instant. Vous le savez, on est là chaque soir du lundi au jeudi, 20h-22h, radio, télé et les podcasts. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Le retour de Tech & Co sur BFM Business, un grand merci d'être là. Nous allons maintenant évoquer La Poste. La Poste qui lance sa 9e édition de son concours French Tech IoT Impact et Technologie. L'idée, c'est de détecter pour La Poste les startups qui peut-être demain intégreront cette belle maison qui a Vanessa, combien d'années?
600 siècles.
6 siècles, j'allais dire 450 ans, mais c'est plus que ça. Et bien voilà, et la Poste, dans sa transformation numérique, essaie d'avoir toujours un coup d'avance et de détecter les startups qui pourraient demain apporter un nouveau business et de nouveaux services. Bonsoir Vanessa Choctaw.
Bonsoir François.
Vous êtes la directrice générale de Doca Post Institute et de l'accélérateur de startup French IoT, pour lequel vous êtes ce soir avec nous. On va présenter aussi nos invités Thibaut Soulier. Bonsoir Thibaut.
Bonsoir.
Président de WeDrop et Yoël Hasson, directeur général de Cogis Network.
Bonsoir François.
Alors vous, deux des 12 lauréats de l'édition 2022. Voilà.
Parfait.
Vanessa, avant de rentrer dans cette 9e édition, dont le coup d'envoi peut être donné quasiment ce soir dans Tech & Co, et vous allez nous expliquer l'appel à candidature que vous voulez faire, un mot sur Doca Post, hein, qui est l'entité, on va dire, innovante, numérique, en fait, du groupe La Poste. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Oui, Doca Post, c'est la filiale emblématique, effectivement, de la transformation numérique que l'on fait pour nos clients, donc entreprises et puis clients institutions publiques. Et Doca Post est un référent actuellement sur la confiance numérique, donc un positionnement qui se construit année après année avec une belle trajectoire et une belle ambition pour devenir l'un des leaders de la confiance numérique au niveau européen et voire même international.
Évidemment, voilà, c'est la transformation numérique de La Poste. Vanessa, donc, cette 9e édition de ce concours French IoT, coup d'envoi, je le disais. 9e édition, ça veut dire qu'il y en a eu 8 auparavant. Pourquoi avez-vous lancé ce concours et quel est l'intérêt pour Doca Post et La Poste d'avoir ce concours?
Alors c'est un concours, même un accélérateur, c'est devenu un accélérateur dans le groupe, donc on en est à la 8e édition, lancée en 2015. À l'époque, on voulait constituer un écosystème de partenaires, pas seulement des grands groupes partenaires, mais également des start-up, parce qu'il y a de l'apport d'innovation incessant. Et puis on a lancé la dynamique de concours, ça a été un vrai succès dès la première année, on avait plus d'une centaine de candidatures, on en avait retenu une quinzaine. Et ça a fonctionné, et donc nous avons décidé de prolonger dans la durée, et surtout d'accompagner les startups, parce qu'elles nous l'ont demandé.
D'accord.
En fait, au fur et à mesure, elles nous disaient, c'est bien, mais on souhaite de l'accompagnement, on souhaite être formé, on souhaite également être mis en relation, parce qu'il y a des codes, il faut décoder les synergies à opérer avec les grands groupes. Donc on s'est dit, très bien, on va devenir un accélérateur pour leur donner les clés pour bâtir les relations de confiance avec le groupe et surtout viser les synergies business.
Alors cette 9e édition, le coup d'envoi a été donné le 1er mars dernier, donc ça fait une petite semaine, avec des thèmes qui sont forts. Je crois qu'il y a 4 thèmes forts ce concours cette année.
Alors on a reconduit 4 thématiques qui sont alignées avec la stratégie du groupe La Poste et de Doca Post. Donc on recherche des solutions numériques, donc des startups qui innovent dans le domaine de la e-santé, dans le domaine des services de proximité, donc très en alignement avec notre branche historique de logistique. Nous avons également les services aux entreprises pour améliorer les processus, la relation client, la relation également employeur. Et puis nous avons le service au territoire, parce qu'on a une très belle capillarité au niveau du groupe à l'échelle territoriale, et c'est comment on rend beaucoup plus accessible le service public et comment on agit aussi sur l'inclusion numérique et l'éducation.
Et si on répond à l'un de ces critères, donc, on peut candidater pour cette 9e édition?
Alors, il faut être une start-up déjà avec un service numérique sur l'une de ces 4 thématiques. Être une start-up aussi qui partage nos valeurs, l'impact. Avoir un impact sur la société, donc être vraiment dans cette idée de confiance numérique. Soit on a une éthique autour de l'usage de la data, soit c'est un impact positif au niveau green IT environnemental, soit ça va être vraiment agir sur la société, l'inclusion, l'accessibilité, la parité,
la santé,
et c'est la santé pour tous, accessible à distance. Donc voilà, c'est tout ce que l'on couvre. Et il faut que les startups, pour qu'elles bénéficient vraiment de l'accélérateur, parce que c'est de la formation pendant 6 mois très pointue, il faut être en commercialisation ou commercialisation. Donc avoir franchi l'étape du concept et vouloir dans les 6 prochains mois déboucher sur des contrats, tout simplement.
Donc après les gagnants de ce concours, alors l'année dernière ils étaient 12, qu'est-ce qu'ils... Ils entrent en fait un peu dans la famille de La Poste. Ils se retrouvent... Vous les aidez comment en fait?
Alors on les aide avec un programme booster. Donc ça commence dès le mois de juillet, on les passe à l'essoreuse, ce sont 3 jours de bootcamp intensif. Certains nous disent que c'est le 360 degrés de l'entrepreneuriat. Et puis ensuite, on se revoit tous les mois, mais vraiment pour travailler sur la scalabilité, la la croissance de l'entreprise et surtout pour les préparer à discuter avec les directeurs achats, les directeurs projets, les directeurs de business unit, mais d'égal à égal. On les prépare à être vraiment robustes pour la première prise de rendez-vous avec un interlocuteur dans notre groupe ou avec nos partenaires externes pour qu'ils puissent arriver à contractualiser sans se poser la question de sont-ils suffisamment fiables, viables dans le temps, etc. Parce qu'ils sont accompagnés par le programme.
Alors, vous êtes venu sur le plateau Tech & Co ce soir avec deux des lauréats de l'édition de l'année dernière.
Thibaut et Yoël, tout à fait.
L'édition 2022, on va les écouter. Bah, écoutez, le bootcamp s'est bien passé, hein. Ils sont un seul morceau.
Oui, déjà.
Tout va bien. Eux,
ça a été très intensif.
Alors, on va commencer par vous, Thibaut. Présentez-nous WeDrop. Vous parliez tout à l'heure de logistique, de services de proximité. On est pile poil dans ce domaine avec WeDrop. Je crois que vous êtes du Sud-Ouest.
Tout à fait, de Bordeaux, précisément. Nous, notre produit va parler à toutes les personnes qui ont rencontré des difficultés à déposer ou retirer des commandes passées sur Internet, que ce soit des commandes de colis ou de commandes alimentaires. On a créé un système de casier robotisé qui permet d'automatiser le dépôt et le retrait de commandes passées sur Internet.
Donnez-nous un exemple, comment ça marche?
Je
commande un truc sur Internet, ok?
Notre promesse, c'est d'offrir la possibilité à n'importe qui de commander sur n'importe quel site et d'avoir près de chez lui un outil qui lui permet de retirer ou déposer des colis 24 heures sur 24.
Une consigne, en quelque sorte.
Une consigne qui mutualise à la fois toutes les marques et tous les acteurs comme La Poste, Mondial Relais, Relais Colis et l'alimentaire. On peut également se faire livrer son drive pour simplifier le retrait des commandes qu'on a passé.
C'est un peu le carrefour du client, en quelque
sorte.
Exactement.
On essaye de commercialiser ça dans des centres commerciaux pour être sur le chemin des consommateurs quand ils rentrent du boulot et pour avoir qu'un seul point pour récupérer tous leurs colis, pour éviter de faire plusieurs consignes pour récupérer plusieurs marques de colis.
Alors, vous venez d'équiper la station colis Westfield au Forum des Halles. C'est ça ?
Tout à fait.
Qu'est-ce que ça donne ?
Alors, ça fait un mois que ça a ouvert, ça se passe très bien, à la fois pour le côté utilisateur, le côté livreur, et Westfield est très content qu'on ait ouvert.
Après, il faut créer de nouvelles habitudes aussi pour les consommateurs. Hein.
Tout à fait, c'est nouveau.
Mais alors, même si des consignes existent, Amazon fait ça depuis pas mal de temps d'ailleurs.
C'est ça, mais on a beaucoup travaillé à la fois avec Westfield et les livreurs pour le côté expérience, pour que n'importe qui puisse arriver dans cette station colis et comprenne dès le premier coup comment ça fonctionne.
Mm-hmm. Et j'ouvre ça comment ? Avec mon smartphone ? Comment
oui,
ça marche ?
Oui, tout à fait. Vous passez une commande sur un site internet, vous choisissez un point relais, le Forum des Halles de Westfield, et vous recevez un mail comme quoi votre colis a été bien chargé dans la machine. Vous avez un QR code, vous scannez pour ouvrir la cellule, vous scannez sur la machine, et il y a un bras robotisé qui va chercher un casier dans lequel il y a votre commande. Et si vous avez deux commandes, ça vous indique que vous avez une commande de colis sec et une commande de colis frais.
D'accord, ça veut dire qu'en fait, derrière toute cette consigne, il y a du stock qui
tout
est géré
fait.
Par le robot.
Là,
c'est
vous
ça,
voyez
la
dans cette image, c'est un système qu'on a implanté dans le 15e arrondissement pour FM Logistique. Il fait 7 mètres de profondeur avec un équivalent de plus de 300 sacs de courses.
C'est pas mal. Et on peut comprendre, Vanessa, pourquoi ce service est pertinent pour La Poste et DocaPost.
Tout à fait. Et on a sélectionné, alors c'est très sélectif, le programme French IoT, parce que sur plus de 400 dossiers reçus, on n'en sélectionne que 12 à 16. Et ce qui nous a plu dans WeDrop, déjà, c'est que dès l'étape de sélection et de jury de pitch, on s'est tout de suite dit, c'est bon, ça peut fusionner avec la place des services, qui est un projet du groupe et qui vise à intensifier la proximité et les services à domicile.
Tout à fait. On est devenu un outil du groupe La Poste en partenariat avec la place des services et on a le premier déploiement dans les prochains mois. Et
l'objectif, c'est d'en mettre dans les centres commerciaux, les lieux de vie, les gares.
Les lieux de vie, sur le parcours de vie des consommateurs. C'est-à-dire dans les gares, on discute aussi avec la SNCF grâce au parcours French IoT et dans les centres commerciaux, dans toutes les villes.
Parfait. Et ça s'appelle WeDrop. Yoël Hasson est avec nous. Bonsoir, Yoël.
Bonsoir.
Donc, directeur général de Cogis Network. L'un des lauréats de la promotion 2022. présentez-nous Cogis Network.
Alors, Cogis, on adresse les établissements de santé qui répondent à deux enjeux principaux. Le premier, c'est un enjeu d'améliorer l'expérience patient. Avec le vieillissement de la population en France, les établissements de santé sont de plus en plus fréquentés. Mmh. Le deuxième défi, ça va être d'améliorer la qualité de vie au travail, puisque 99% des établissements de santé sont en sous-effectif et peinent à recruter. Donc, c'est en partant de ce constat-là qu'on a décidé d'agir et d'accompagner les établissements de santé dans la digitalisation du parcours patient.
Alors, comment ça se passe, en fait? C'est-à-dire que, alors, si vous êtes avec nous à la télé, on voit, il y a des bornes, là. J'imagine qu'on est dans un établissement de santé. Il y a une borne. C'est une borne, Cogis, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle me propose si je suis visiteur?
Alors, si demain vous vous rendez à l'hôpital, quand vous allez arriver devant la borne...
Le plus tard possible.
Je vous le souhaite pas, mais tout à fait. C'est pour l'exemple, en tout cas.
Bien sûr.
Donc, vous arrivez devant la borne va vous dire « Bonjour, François ». Votre dossier est complet, vous pouvez vous rendre en service cardiologie.
Mais comment m'aura-t-elle détecté et reconnu?
Alors, grâce à l'interopérabilité, donc ce qui veut dire être connecté avec les logiciels métiers de l'hôpital. Donc du coup, on va pouvoir récupérer la liste des patients qui ont rendez-vous, les identifier, contrôler si le dossier administratif est complet ou incomplet. Dans le cas où le dossier est complet, le patient ne passera pas par le bureau des admissions pour effectuer les formalités administratives. Il pourra se rendre directement dans le service de soins. Donc on va gagner beaucoup de temps, à la fois pour le patient, mais à la fois pour le personnel administratif. Et dans le cas où le dossier est incomplet, on va donner de l'autonomie aux patients. Ils vont pouvoir scanner les documents, le ou les documents manquants directement sur la borne, ce qui va faciliter la prise en charge une fois qu'il sera devant un agent.
Et c'est un immense soulagement, j'imagine, pour tout le personnel d'accueil des hôpitaux qui se retrouve submergé par ce type de tâches administratives.
Oui, c'est essentiel d'avoir ce type de dispositif aujourd'hui. Et pour régler ce type de problématique, on peut avoir plusieurs possibilités, comme recruter du personnel supplémentaire. Mais la solution qui est la plus adaptée aujourd'hui, c'est vraiment ce type de dispositif, les bornes qu'on voit un petit peu partout, qui ont été démocratisées.
Très bien. Vous n'êtes que sur ces bornes-là ou vous avez d'autres systèmes comme ça d'accompagnement?
On a d'autres solutions. Déjà, là, ce que vous voyez, c'est une borne d'admission sur laquelle on va pouvoir faire plein de démarches administratives sur la borne. Donc, de l'identification avec la carte vitale, pouvoir scanner des documents, imprimer des planches d'étiquettes directement. Mais on va aussi proposer une solution de gestion de file d'attente. Donc, à la fin du passage sur la borne, vous allez récupérer un ticket d'attente. Et sur ce ticket, vous allez avoir un numéro. Mais en fait, ce numéro de ticket, il est affilié à Yoël Asson qui arrive dans l'établissement. Donc, ce qui va pouvoir permettre au personnel de savoir que Yoël Asson, il a rendez-vous à 9h. Mmh. Et donc, de pouvoir prioriser lorsqu'il est en salle d'attente. Je vais appeler Monsieur Asson qui a rendez-vous à 9h parce qu'il est 8h50 et que j'ai d'autres personnes en salle d'attente qui ont rendez-vous plus tard.
Très bien. Juste un mot sur cet accompagnement donc de DocaPost. Ça fait quelques mois que vous y êtes. Qu'est-ce que ça a changé rapidement, Thibault?
De mieux comprendre le groupe La Poste, premièrement. Mmh. C'est un groupe tentaculaire et ça on avait beaucoup de questions. De pouvoir rencontrer aussi les bonnes personnes au sein du groupe La Poste. Mmh. Et de faire 6 mois très intensifs de rencontres et de formations très très utiles pour nous à ce stade de développement.
Yoël?
Alors c'est prendre de la hauteur, pouvoir se poser sur des sujets qui sont stratégiques pour l'entreprise, mais sur lesquels dans notre train-train quotidien on n'a jamais le temps. Et donc du coup on a rejoint une vraie famille, puisqu'on est en collaboration avec les différentes sociétés start-up lauréates et aussi tout le réseau que La Poste peut nous apporter.
Vanessa, le mot de la fin. Donc, l'ouverture, les candidatures depuis une semaine.
C'est ouvert jusqu'au 31 mars. Voilà. Et j'invite à la veille de la journée de la femme, les femmes aussi fondatrices de start-up à candidater. Mm-hmm. Parce que nous souhaitons la parité. Effectivement, sur les 12 à 16 start-up choisies chaque année, c'est moitié-moitié. Et plus on a des candidatures mixtes, plus on a une sélection facile à l'arrivée.
Oui, c'est vrai.
Avis aux femmes entrepreneurs.
Voilà, le message est passé et rendez-vous à Vivatech pour connaître les lauréats de cette 9e édition.
Annonce à Vivatechnologie.
2023, voilà. De ce donc grand rendez-vous, la 9e édition de ce concours French IoT Impact et Technologie de DocaPost. Merci beaucoup Vanessa Choctaud.
Merci.
Directrice générale donc de DocaPost Institute et de l'accélérateur de Startup French IoT, Thibault Soulier, WeDrop et Yoël Asson, directeur général de Cogis Network. Merci beaucoup.
Merci.
Vous restez avec nous bientôt 21h30 sur BFM Business. Tech & Co revient dans quelques instants. Notre rendez-vous French Tech. Etienne Braque aussi qui nous rejoint dans quelques minutes avec l'un des dirigeants d'Atos. Vous restez là juste après l'info éco. On est de retour. À tout de suite.
BFM Business, l'info éco.
21h30 sur BFM Business, Radio Télé. Merci d'être avec nous. L'info éco, c'est avec Raphaël Couder. Bonsoir Raphaël.
Ce soir, cette sixième journée de manifestation contre la réforme des retraites. 3,5 millions de personnes ont défilé en France selon la CGT, 1,3 million selon le ministère de l'Intérieur. Les syndicats saluent une mobilisation historique et prévoient déjà deux nouvelles journées de mobilisation, dont une samedi prochain. Pendant ce temps-là, le texte continue son chemin au Sénat. Les parlementaires examinent depuis la fin de cet après-midi l'article 7 de la réforme, article relatif au report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Dans l'actualité également ce soir, EDF sommé par l'autorité de sûreté nucléaire de revoir sa stratégie pour résoudre les problèmes de corrosion de ses centrales après la découverte d'une nouvelle fissure importante sur une soudure de l'un des réacteurs nucléaires de Penly. Le gendarme du nucléaire met sous pression l'électricien. Une annonce qui met une nouvelle fois EDF en difficulté alors que le groupe a été plombé toute l'année dernière par les déboires de son parc nucléaire. Aux États-Unis, l'avertissement de Jerome Powell, le président de la Banque centrale américaine, indique que les taux de la Fed pourraient monter plus haut que prévu. L'inflation plus importante qu'attendue en janvier aux États-Unis oblige la Banque centrale américaine à envisager une nouvelle accélération du resserrement de sa politique monétaire. La Fed tiendra sa prochaine réunion les 21 et 22 mars prochains. Airbus retrouve des couleurs en février. L'avionneur a livré 46 appareils à ses clients le mois dernier, après un mois de janvier catastrophique. L'avionneur rencontre en effet des difficulté à accélérer sa cadence de production depuis la fin de la pandémie. Il espère remonter à un rythme de 65 avions livrés par mois d'ici à la fin de l'année prochaine. Et puis, les excuses d'Heineken, le brasseur néerlandais reconnaît avoir créé une ambiguïté autour de sa promesse de quitter la Russie. Le groupe a été accusé il y a quelques jours par un site d'investigation d'avoir maintenu ses opérations sur place malgré l'annonce de son retrait. Heineken explique aujourd'hui ne pas avoir encore trouvé d'acheteur pour reprendre ses activités en Russie à cause des conditions réglementaires compliquées, mais le brasseur indique qu'il poursuit ses efforts en ce sens.
Merci beaucoup Raphaël Couder. Il est 21h33 et vous le savez, chaque soir à la même heure, on se plonge sur le site de Tech & Co. Tech & Co, c'est, vous le savez, votre émission de radio et de télé tous les soirs hein, sur BFM Business de 20h à 22h. C'est aussi une chaîne de télé 24h sur 24 sur toute la tech, sur les box opérateurs, et c'est aussi un site donc qui vous tient au courant de toute l'actualité tech. Louis Mbende est avec nous. Bonsoir Louis.
Bonsoir François.
Alors ce soir, on va parler avec toi de Google qui donne des nouvelles de son projet d'intelligence artificielle capable, écoutez bien, de traduire ses services dans 1000 langues.
Oui, c'est ça. On en sait un peu plus sur les contours de ce projet annoncé en novembre dernier, puisque Google a présenté hier dans une note de blog quelques éléments relatifs à la fabrication de cette intelligence artificielle. On apprend notamment que cette intelligence artificielle a pour spécificité d'effectuer son apprentissage non plus seulement à partir de textes, comme ça peut être le cas par exemple avec ChatGPT, mais aussi à partir de données vidéo, d'images, de paroles, d'extraits vidéo. Et pour ça, ça s'appuie justement sur une quantité assez extraordinaire de données. Selon Google, 12 millions d'heures de paroles et 28 milliards de phrases écrites qui couvrent plus de 300 langues.
Ouais, donc ce sont des chiffres vraiment impressionnants, malaxés hein, par l'intelligence de Google. Et visiblement, ce projet avance plutôt bien.
Plutôt, oui. Toujours selon Google, le modèle est déjà capable, par exemple, d'effectuer une reconnaissance automatique de la parole dans une centaine de langues, des langues assez répandues comme l'anglais par exemple, mais aussi rares comme des dialectes africains. Et l'intelligence est également capable, enfin est actuellement déjà utilisée pour créer des légendes de vidéos sur YouTube.
Est-ce qu'on a une idée, Louis, de la date d'arrivée de cette IA au sein des services de Google ?
C'est pas prévu pour tout de suite. Google a déjà dit que le projet prendrait plusieurs années à être développé et le service en fait sera progressivement déployé dans différents services de Google comme Google Traduction, YouTube ou bien des claviers numériques notamment.
Eh bien voilà, l'intelligence artificielle de Google. Voilà Google qui essaie de se débattre face à ChatGPT et son ennemi toujours, Microsoft, hein, dans l'IA aujourd'hui. Merci beaucoup, Louis.
Merci, François.
De la rédaction de Tech & Co. Et vous restez avec nous. Tout de suite, c'est Étienne Brack et son invité qui nous rejoignent sur le plateau de Tech & Co.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Bonsoir Étienne Brack.
Bonsoir à tous.
Notre spécialiste bourse, oula, bien sûr, mais aussi fan de nouvelles technologies. Étienne est le premier auditeur de Tech & Co tous les soirs. J'espère que tu ne vas pas me contredire, Étienne.
Ah non, je vous écoutais sagement au deuxième été.
Et dans un instant, on sera avec le directeur général d'Atos. Mais juste avant, quelles sont les publications à retenir dans la tech aujourd'hui, Étienne?
Bon, on n'a pas beaucoup de temps. J'en ai sélectionné deux pour vous.
C'est
les
bien.
Publications vraiment frappantes. Salesforce, on en avait parlé ces dernières heures ensemble. Hein. Salesforce, vous savez, géant américain des logiciels, CRM, groupe qui était en difficulté en bourse ces derniers mois, ralentissement de la demande et puis surtout des fonds activistes qui sont rentrés au capital et à force de secouer le prunier, ils ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient puisque le groupe va racheter plus de 20 milliards d'euros d'actions afin de les annuler. Donc forcément, ça fait monter le cours de bourse. Hein. Un cours de bourse qui a quand même gagné plus de 10% en l'espace de 4 séances avec des résultats quand même qui s'améliorent un petit peu. Mais après, il ne faut pas oublier qu'on a connu une période faste hein, avec les confinements, etc. On avait des éditeurs de logiciels qui avaient connu des pics d'activité. Donc là, forcément, eh bien, ça se normalise. Et puis, ça se normalise également pour Zalando, hein, c'est le numéro 1 européen du e-commerce. Ça se passe à Francfort. Groupe très prudent quand même par rapport à 2023. Inflation, forcément, dans un contexte d'inflation, on a des consommateurs qui font un peu attention à leurs dépenses. Et puis là aussi, on avait des chiffres d'affaires, des résultats exceptionnels en 2020, en 2021, avec la pandémie, hein, parce que les boutiques étaient fermées. Donc forcément, ça fait le plaisir des sites de e-commerce. Donc là, on a une activité qui est attendue encore en légère baisse pour cette année.
Un mot sur les renouvelables, avec Neoen qui lance une augmentation de capital, Étienne.
Oui, c'est intéressant ce qui se passe autour de Neoen. Vous savez, c'est le premier producteur d'énergie renouvelable en France. Et donc là, ils ont annoncé une augmentation de capital de 750 millions d'euros. Ça veut dire que les actionnaires vont être dilués, sauf s'ils remettent la main au pot et qu'ils participent à cette augmentation de capital. Ce qui explique qu'on a un cours de bourse qui a été un petit peu chahuté là, ces dernières semaines. Alors c'est intéressant, Neoen, puisqu'ils vont notamment se renforcer dans le stockage de l'énergie. Parce que ce qu'ils font, c'est l'électricité à partir des panneaux solaire, mais le problème c'est que quand il n'y a pas de luminosité, le matin, le soir, on a des pics, hein, notamment de consommation, notamment le soir, et donc eux en fait ce qu'ils veulent faire c'est stocker l'énergie pour pouvoir répondre à ces pics dans la soirée, et donc par rapport à cela ça demande du cash, et donc augmentation de capital qui est en cours pour Neoen, 750 millions d'euros.
Voilà, ce qui est aussi la stratégie de Tesla hein, dans le domaine de l'énergie, on capte l'énergie solaire et on la stocke dans des batteries pour après la restituer plus tard. Étienne, notre invité est Nourdine Biman. Bonsoir Nourdine.
Bonsoir François.
Vous êtes le directeur général délégué d'Atos. Merci d'être avec nous pour ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. Alors Étienne, la bonne nouvelle, c'est que pour la première fois depuis 2018, le chiffre d'affaires d'Atos est reparti à la hausse l'an dernier.
Oui, il est reparti à la hausse. Alors Atos, c'est un groupe qui est en pleine transformation. Hein, Nourdine Biman, hein, vous allez nous donner dans un instant la stratégie des prochains mois, des prochains trimestres pour Atos. Alors forcément, eh bien, cette transition, elle a un coût hein, dans le sens où on a une entreprise qui se réorganise. Mais quand vous regardez les différents analystes qui ont publié des notes suite à la publication de vos résultats, bah, finalement, ça leur plaît puisqu'on a un cours de bourse qui a bien remonté hein, depuis la publication de vos résultats la semaine dernière. 1 milliard de pertes en 2022 versus 3 milliards l'année dernière. Mais vous êtes prudent pour 2023 avec un chiffre d'affaires qui est attendu stable, mais en même temps, vous réorganisez. Hein, donc, il y a des activités qui vont sortir du périmètre. Mais on a une marge opérationnelle qui s'améliore. Comment vous voyez aujourd'hui les perspectives, l'année 2023, après avoir publié vos résultats 2022 ?
Merci Étienne. Premièrement, 2022 a été une année charnière pour le groupe. On a lancé ce plan de séparation et on a lancé le plan de transformation. Ensuite, l'année 2022, il faut la voir comme deux séquences, le premier semestre et le deuxième semestre. Et au deuxième semestre, entouré de l'équipe de management, Philippe, Oliva et Diane Galbe, on a pu relancer Atos et remettre Atos sur de bons rails. Notamment sur la partie commerciale. On a connu un momentum commercial assez extraordinaire. Au milieu de cette transformation, des clients nous ont fait confiance, des clients ont rejoint, des clients ont cru en notre portefeuille. Et je citerai peut-être l'UFA qu'on connaît. L'UFA s'est engagée avec nous sur un contrat de plus de 8 ans pour prendre en charge toute la digitalisation de leur informatique sur les 8 prochaines années. Mais je dirais aussi sur la partie marge, comme l'a exprimé Étienne, on a pu faire de la marge passer de 1,1% en achat à plus de 5% en H2. Et tout ça a été le fruit de toutes les actions d'optimisation de coûts, de transfert de prix, d'augmentation de prix auprès de nos clients, puis de réduction de contrats qui étaient sous-performants. 2023 maintenant. 2023, on va continuer à faire ce qu'on a fait en 2022 au deuxième semestre. On va continuer à travailler sur notre base de coûts. On va continuer à investir dans nos offres de portefeuille. Et là, là-dessus, il y aura deux dynamiques. La dynamique Evidian, qui va être la partie qu'on va, dont on va faire le spin-off. Et puis la partie du nouvel Atos, en tout cas les activités historiques d'Atos qui vont rester. Donc là, on continue à investir sur le portefeuille. Puis, on va continuer aussi à aller gagner, chercher des nouveaux clients. Juste un dernier point.
Oui.
La cybersécurité, sur le quatrième trimestre, a augmenté à plus de deux chiffres. Donc, il y a une demande.
Oui, vous bénéficiez de cette dynamique malheureuse, en quelque sorte, hein, de ces problèmes de cybersécurité et d'attaque des entreprises.
Bien entendu, mais au-delà de l'aspect malheureux, je pense qu'on bénéficie aussi de notre position de leader mondial.
De votre expertise dans ce domaine.
De leader mondial dans ces activités-là. Et là, c'est très important.
Un mot peut-être justement sur cette scission que vous préparez, à la fois d'un côté Atos et de l'autre Evidian. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les deux parties, quelles sont leurs activités à terme ?
Evidian va contenir toutes nos activités de cybersécurité, de cloud et de digital, et surtout les activités aussi de fabrication de nos supercalculateurs. Vous en avez entendu parler. On est le seul acteur européen aujourd'hui avec la fabrication de ces supercalculateurs et notamment avec des investissements prononcés sur tous les aspects quantiques. C'est des sujets très importants. Donc ça sera évident. Et le nouvel Atos va se recentrer sur ses activités plus traditionnelles qui sont autour de l'infogérance, mais pas seulement, qui sont autour aussi du support aux utilisateurs, du poste de travail, le digital workplace. On est leader mondial et maintenant, pour la 7e année consécutive, dans les rankings Gartner et autres, et sur toutes les activités de digital proche du client. Donc les activités qu'on appelle plus professional services, et ça aussi, c'est des activités qui sont en croissance dans le nouvel Atos. Voilà.
Et donc ça, c'est prévu pour le second semestre, hein. Introduction en bourse d'Evidian. Et de l'autre côté, Tech Foundation.
De l'autre côté, Tech Foundation, qui deviendra de facto le nouvel Atos. Et effectivement, sur le plan de séparation, où est-ce qu'on en est ? On est en ligne sur le planning qu'on avait annoncé à la journée investisseur au printemps dernier, qui est un listing des activités Evidian au second semestre.
Alors, la semaine dernière, on avait des informations du Monde qui mettaient en avant des informations selon lesquelles Daniel Kretinsky serait intéressé pour entrer au capital donc de cette nouvelle Atos, hein, ce nouvel Atos, donc Tech Foundation actuellement. Est-ce que vous confirmez être en discussion avec des acteurs pour qu'ils rentrent dans votre capital ?
Je pense que le premier constat, c'est que Tech Foundation is back. On a pu remettre Tech Foundation sur le chemin du redressement. Et vous avez vu dans les résultats qu'on a annoncés, on est devenu positif en marche, 3 ans en avance sur le plan qui avait été déclaré à la journée investisseur. Et ça, c'est très important. Et je pense que ça a été possible grâce aux employés d'Atos, grâce aux employés de Tech Foundation, à la fierté qu'ils ont mis dans le redressement de cette activité-là. Ensuite, on avait confirmé au mois d'octobre qu'on avait reçu plusieurs marques d'intérêt, dont Daniel Kretinsky, plusieurs marques d'intérêt sur ce business-là. Le board, le conseil d'administration et son président étudieront toutes ces demandes, mais pour le moment, on n'a aucun élément additionnel à partager.
Étienne ? Non, peut-être. Petite question.
Oui, peut-être une question quand même sur le cloud, hein, parce que c'est quand même une activité qui est en pleine croissance aujourd'hui, sachant que vous avez un partenariat stratégique avec AWS, hein, qu'on ne présente plus, Amazon Web Services.
Accord qui a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça.
Exactement, il y a trois mois.
Aujourd'hui, quels sont les premiers fruits de ce partenariat, sachant qu'on voit de plus en plus d'entreprises qui se digitalisent et qui mettent leurs logiciels sur le cloud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les logiciels ou presque sont en cloud computing, comme on dit.
Bien sûr. Ce partenariat était très important. Je pense que Atos, par le passé, a résisté à ce public cloud, à ces innovations que venaient avec le public cloud. Et mon intention, surtout sur le nouvel Atos, a été de débrider, d'accepter que le public cloud, notamment les hyperscalers américains, feraient partie du panorama, et donc d'accélérer le développement de services et d'offres autour de ce public cloud.
Et dédiaboliser, en fait, ces clouds américains.
Dédiaboliser et surtout ne pas avoir honte de poser les vrais sujets sur la table, notamment les sujets de souveraineté.
Bien sûr, et de sécurité.
Et que la souveraineté peut prendre plusieurs formes, y compris avec des hyperscalers américains, mais bien entendu avec des players européens de type OVH ou OutScale. Voilà.
Merci beaucoup, Nourdine, d'être passé par le plateau de Tech & Co pour faire un point sur Atos, qui donc relève la tête. En tout cas, c'est ce qu'on a bien compris ce soir. Et merci à Étienne Brack.
Merci, François.
Merci. Et Nourdine Biman, directeur général délégué d'Atos. Et vous restez avec nous. On a encore un petit quart d'heure à passer ensemble pour terminer, pour clore ce Tech & Co ce mardi soir. Ce sera notre rendez-vous French Tech avec deux startups food tech que je vous présente dans une minute. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Voilà, suite et fin de ce Tech & Co avec notre rendez-vous French Tech comme chaque mardi soir. Et on prend beaucoup de plaisir à vous faire découvrir nos pépites françaises dans le monde de la tech. Et ce soir, focus sur la food tech avec Clément Rey, qui est le CEO et cofondateur d'InnovaFeed. Bonsoir Clément.
Bonsoir.
On va refaire un point sur InnovaFeed. Et Alvin Séverien est avec nous. Bonsoir Alvin.
Bonsoir.
Cofondateur et CEO d'Algama. Tiens, on va un petit peu changer et poser et donner la parole à Algama. Et à vous, Alvin, vous êtes pionnier dans les ingrédients à base de micro-algues, avec donc ce tour de table bouclé de 13 millions d'euros pour en fait booster un peu votre activité et remplacer l'œuf par les algues. C'est ça l'idée?
Oui, c'est ça. C'est pas forcément très instinctif, mais on utilise les micro-algues depuis de très nombreuses années. Alors globalement, c'est utilisé beaucoup pour leurs vertus nutritionnelles. Et chez Algama, on s'est intéressé à leur fonctionnalité, à ce qu'elles peuvent faire en termes de texture. Et ça fait 9 ans qu'on travaille sur cet ingrédient très intéressant pour pouvoir créer des alternatives aux protéines animales.
D'accord. Et donc, à base de micro-algues, pardon, vous arrivez à créer, on va dire, quoi, une protéine, en tout cas un amas de protéines qui ressemble à des œufs. C'est comment vous,
oui, c'est ça.
Quelle est l'analogie que vous faites
Alors ça va pas forcément ressembler directement à un œuf, mais quand on va l'utiliser dans un produit, ça va ressembler parfaitement à un
œuf. Donc l'émulsion,
dans un gâteau par exemple.
D'accord.
Dans une émulsion, dans une mayonnaise, dans des sauces, et ça aura un goût parfait, une texture parfaite.
Un goût parfait, c'est-à-dire que ça aura le goût de l'œuf.
Oui, ça veut dire qu'on ne saura jamais qu'il y a de l'algue dedans.
Sans protéine animale.
Sans protéine animale, aucune.
Alors, comment vous arrivez à faire ça?
C'est de la magie.
On veut la recette.
Alors, les micro-algues sont des micro-organismes qui ont énormément de particularités. Mmh. Et ces protéines qui sont utiles dans la texturation des aliments sont très riches dans les algues. Donc, ce que nous avons fait, c'est tout simplement essayer de comprendre comment elles fonctionnaient pour pouvoir extraire celles qui allaient nous permettre d'avoir des beaux produits.
Très bien. Vous en êtes où dans le développement de ce produit, donc cet œuf à base de micro-algues? Enfin, c'est même pas un œuf, en quelque sorte. C'est un aliment qui ressemble à un œuf conçu à base de micro-algues.
Oui, nous, on vend des ingrédients. On vend des ingrédients à ceux qui veulent faire des produits. Et du coup, ça existe. C'est possible de nous acheter des ingrédients qui permettent de remplacer les œufs.
Et vous êtes venu d'ailleurs avec une omelette, Alvin.
Dans ma poche.
Ah, zut.
Mais du coup, non, désolé, j'ai pas d'omelette aujourd'hui. Mais du coup, c'est vrai que c'est... aujourd'hui, on a une cinquantaine de personnes, une cinquantaine d'employés. On a, grâce à notre levée de fonds récente, pu faire l'acquisition d'une usine qui nous permet de monter en puissance avec des volumes très importants. Et donc, après de nombreuses années, une R&D très réussie, on a des produits qui sont très efficaces, qui satisfont les industriels de l'agroalimentaire notamment.
D'accord. Cette série A, justement, de 13 millions, va vous permettre d'investir dans de nouvelles usines,
oui,
des lignes de production, c'est ça?
Absolument. On va avoir la capacité, quand on aura terminé notre première usine, donc cette année, d'avoir en équivalent œuf 200 000 tonnes de production.
À qui s'adresse cet ingrédient, en fait? Aux véganes? C'est votre votre première cible de client?
Eh bien, non.
Eh bien, non.
Parce que les véganes, évidemment, sont ravis de pouvoir consommer cet ingrédient, mais ce ne sont pas les seuls. On a un ingrédient qui ne se ressent pas, donc finalement, c'est bien pour tout le monde. Vous avez vu qu'on a eu pas mal de pénuries au niveau des œufs. Les œufs, en plus, c'est quand même un ingrédient pour certaines personnes assez compliqué à cause du cholestérol. C'est un allergène majeur. On a, pour beaucoup de raisons, intérêt à pouvoir switcher dans certaines matrices. Et en plus, notre ingrédient est moins cher que l'œufre.
Oui, sans parler du bien-être animal, hein, qui est parfois, on va dire, un peu bafoué lorsqu'on élève des poules dans ces batteries. Alors même si, petit à petit, on se rend compte que toute la chaîne de production et de la distribution tire un trait sur ces poules qui sont élevées dans des batteries, parfois sur plusieurs étages, etc. Mmh. On revient à des choses un petit peu plus correctes. Merci beaucoup, Alvin. Clément, c'est à nous. Alors, félicitations, parce que c'est déjà faire partie de cette promotion du French Tech Next 40, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette grosse levée de fonds, c'était en septembre 2022 de 250 millions d'euros. Peut-être nous rappeler ce qu'est InnovaFeed ?
Alors, chez InnovaFeed, on élève des insectes pour produire des ingrédients, notamment pour nourrir des animaux, comme des poissons, des saumons, des truites. Quelque part, si on prend un peu de recul, ce que l'on fait, c'est repositionner l'insecte dans la chaîne alimentaire, au même endroit qu'il est dans la nature. C'est-à-dire, son rôle, c'est de transformer des déchets en humus et de réinjecter des nutriments qui sont... parce que les insectes sont ensuite mangés par des petits oiseaux, des poissons, des animaux. C'est un des principes de circularité de la nature et c'est ce qu'on essaye de réintroduire dans notre système alimentaire.
C'est compliqué de produire comme ça des insectes en masse, en quelque sorte.
En fait, c'est toute une industrie et toute une filière agricole qu'on est en train de construire. Donc, il y a des sujets technologiques, des sujets industriels, des sujets réglementaires, des sujets commerciaux. Donc oui, aligner toutes ces planètes, quelque part, c'est compliqué. Peut-être que le sujet le plus facile à comprendre, c'est le sujet de la technologie. Pour pouvoir, en fait, élever des insectes à grande échelle, de façon automatisée, dans des bonnes conditions, beaucoup de choses doivent être inventées. La façon de manipuler les insectes, de les nourrir, de gérer leur reproduction. Donc, beaucoup de robotique. Et aujourd'hui, InnovaFeed, sur les 400 personnes qui travaillent dans la société, il y a plus de 250 ingénieurs qui travaillent sur le développement de l'ensemble de ces technologies nécessaires pour faire émerger l'industrie.
Et la robotique est un élément clé, en fait, de la production en masse de ces insectes ?
Oui, c'est un des éléments clés du modèle industriel. Je prends un exemple. Dans notre dernier site dans la Somme, à Nel, on doit être en mesure de pouvoir collecter 30 000 œufs d'insectes chaque seconde. Et donc ça se fait pas manuellement. Tout se fait de façon automatisée.
Alors, aujourd'hui, vous disposez de la plus grande capacité de production d'insectes au monde, avec deux sites en activité, je crois. C'est quoi la roadmap d'InnovaFeed pour l'année 2023 ? Arrêtons-nous à 2023 déjà, parce que ça va vite.
Sur 2023, il y aura une montée en puissance de notre site dans la Somme, avec son extension et le triplement de la capacité de production et des volumes. Il y a la construction et le démarrage de notre premier site aux États-Unis. Donc la construction a commencé, la production a commencé à la fin de l'année. Une approche modulaire, on construit une première tranche d'une usine, de manière après pouvoir l'étendre. Il y a la stabilisation de l'ensemble de nos procédés dans une phase de scale-up. Il y a des choses aussi à stabiliser par moment. Et je pense que c'est des phases aussi assez intéressantes. Je pense que je pourrais vous en parler encore beaucoup plus.
Juste un mot sur l'implantation de votre nouveau site aux USA. Je crois que c'est dans l'Illinois.
C'est juste.
Vous avez des concurrents aux US ?
Oui, il y a quelques acteurs qui se développent.
D'accord.
Très clairement, on est aujourd'hui le leader mondial de notre technologie. Et c'est aussi pour cela que nos partenaires américains avec lesquels on développe ce site, en l'occurrence ADM, est venu nous chercher pour pouvoir recycler leurs coproduits, leurs déchets à partir de notre technologie. Et notre technologie a été évaluée comme la technologie la plus aboutie au niveau mondial dans cette industrie.
Alors, quand on évoque l'élevage d'insectes de masse en France, on pense à vous, on pense aussi à Insect. Comment vous démarquez-vous d'Insect ? Est-ce que vous êtes des concurrents directs ? Comment vous différenciez-vous ?
Quelque part, je pense qu'il y a plusieurs choses qui nous rassemblent.
C'est cette philosophie de vouloir nourrir à la fois les animaux et peut-être les humains aussi pour Insect. Mais on va y revenir dans un instant, peut-être pour vous aussi.
Oui, absolument. Je pense que c'est utiliser l'insecte pour rendre le système alimentaire plus durable, plus naturel. Ça, je pense que c'est... Et donc, on le fait en remplaçant un certain nombre d'ingrédients à fort impact environnemental, comme les farines de poisson, le soja, certaines protéines animales, par ces protéines d'insectes qui ont un plus faible impact carbone. Après, bien sûr, il y a des choix technologiques qui sont un petit peu différents. C'est pas forcément la même génétique d'insectes, c'est pas forcément le même modèle de développement industriel. On a fait des choix forts visant notamment à optimiser l'ensemble de notre chaîne de valeur en amont, minimiser notre consommation d'énergie, minimiser les coûts logistiques de transport, ce qu'on appelle le modèle de symbiose industrielle, où on travaille en lien très fort avec des gens comme ADM aux États-Unis, comme Piraeus en France. Et on a également en fait une visée d'optimiser véritablement les coûts de production pour les marchés cibles, comme celui de l'aquaculture ou de la nutrition humaine.
La nutrition humaine, c'est la prochaine étape, forcément.
C'est un marché prometteur, plus moyen terme, quelque part. Mais le potentiel intrinsèque de l'ingrédient est très fort. Si on compare la protéine d'insecte aux protéines végétales, on a moins de la moitié de l'impact carbone. Protéines concentrées de pois, c'est protéines dingue. D'insectes, moins de la moitié de l'impact carbone. Des propriétés nutritionnelles qui sont meilleures, liées à la séquence d'acides aminés qui composent les protéines d'insectes, et à un goût, ce qu'on appelle des propriétés organoleptiques qui sont également très intéressantes. Tout ça fait que l'ingrédient, d'un point de vue intrinsèque, a tout pour pouvoir se positionner dans un certain nombre d'applications. Après, bien sûr, il y a toute l'acceptation des consommateurs, l'histoire à raconter autour de ça, en particulier en Europe, qui reste à construire.
Bien sûr, et ça peut prendre un peu de temps,
bien sûr.
Tout ça. Merci beaucoup, Clément Ray, donc CEO et cofondateur d'Innovafeed, et Alvin Sévérien, donc cofondateur et CEO d'Algama. Merci d'être passé par le plateau de Tech & Co pour notre rendez-vous French Tech en ce mardi soir. Tech & Co est terminé, bientôt 22h. Merci de nous avoir suivis. On sera là, bien sûr, demain, mercredi, pour vos 2 heures de tech à la radio, à la télé. Merci de nous suivre et très très bonne soirée. À demain.